Oh. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous a donné rendez-vous pour une gazette radicale de mai 25 et on a fait le choix de la positionner dans un axe dialectique qui est auto-présupposé par une triade très simple, mais qui est la triade décisive de la compréhension radicale du temps à venir et surtout du travail de prévision qui en résulte. On est parti sur un premier thème, comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale? Ce premier thème en engage un deuxième, puisque le deuxième n'est pas accolé statiquement dans une économie politique immobile comme un deuxième sujet collé au premier, il est l'autodéveloppement du premier. Et il reprend tous les axes méthodologiques qui sont positionnés dans l'introduction de 57, dans les Grundrisse, dans le Capital, à un certain seuil de leur développement dialectique, les forces productives de la marchandise totale ne peuvent que s'auto-invalider. Et en fonction donc de l'en-soi de comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale, du pour-soi du certain seuil qui traverse la totalité de l'histoire humaine de l'aliénation, et la totalité de l'histoire humaine des luttes de classe contre l'aliénation, on arrive au pour-soi qui retourne à soi dans le temps de la crise ultime, c'est-à-dire que la crise ultime est annoncée par la crise ultime du dollar. On reprend ce qu'on a déjà positionné dans le spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et qu'on a ensuite déployé dans le voyage au bout de la fin du Capital. À quel moment la crise ultime dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes rentrés depuis le cheminement dialectique 2008-2018 qui a conduit au taux d'intérêt négatif, qui a donc signifié la crise terminale dans sa phase formelle, nous permettra de poser le surgissement de la phase réelle? Et nous répondons, et nous ne répondons pas nous trois là ce soir, mais nous répondons parce que nous sommes dans la compréhension radicale méthodologique de la critique de l'économie politique, que derrière la crise ultime du dollar qui se profile et sur laquelle nous allons revenir, se profile bien évidemment l'équivalence centrale fétichiste de la valeur mondiale, de l'échangisme totalitaire, de la valorisation et de la dévalorisation. Donc ces trois points sont décisifs. Et ces trois points sont décisifs puisqu'ils marquent une clé méthodologique qui est celle du temps long. Dans les citations qui accompagnent cette émission et que nous vous engageons à lire, qui passeront donc dans un visuel mobile quand la vidéo va circuler, et qui sont en situation d'être lues calmement sur le site de Guerre de Classe, dans le rappel de la vidéo sur le site, on fait mention d'un certain nombre de textes que nous considérons comme essentiels, et entre autres de textes du groupe Guerre de Classe qui ont été publiés en 1985 et 1990. Et dans ces textes, nous positionnions le temps de la valorisation spatialisée qui ne peut durer que tout le temps que le spatialisable demeure lui-même valorisable. Et dans ces textes-là, qui ont donc 50 ans, qui ont donc 50 ans, nous positionnions pas l'écume des choses de l'actualité surfacière, mais nous positionnions le temps long, puisque nous disions, et c'était la clé de la prévision, le système monétaire est devenu un système d'étalons dollars totalitaire. Débarquement de 44, Bretton Woods, accord de la Jamaïque 71, mais ce système totalitaire de la marchandise mondiale qui est celui de l'étalon dollar, il travaille dans la durée à anéantir le système de son propre devenir. C'est ça le travail de prévision. Le travail de prévision, il ne travaille pas à 48 heures sur le fait. Il ne travaille même pas sur le temps plus long de la période historique. Il travaille sur le temps long de l'époque. Qu'est-ce que l'histoire? C'est une série d'époques qui s'invalident les unes les autres. Le temps long, le temps long de l'historicité, c'est l'antiquité qui surgit du néolithique, de la valeur d'échange, et qui travaille à son auto-abolition, et qui, en Europe, va faire surgir le Moyen Âge. Qu'est-ce que le Moyen Âge? C'est le temps long de l'auto-invalidation de la formation sociale médiévale qui travaille à faire surgir les temps modernes. Et les temps modernes, c'est l'auto-présupposition dialectique de l'abolition des temps modernes qui va faire surgir le fait révolutionnaire bourgeois accompli en 1648 en Angleterre et en 1789 en France. Et le travail de compréhension du temps long, c'est la compréhension de l'arc historique, préhistoire, antiquité, Moyen Âge, temps moderne, temps contemporain, avec le surgissement du capital qui fait surgir la domination formelle, qui traverse la fin du Moyen Âge, qui traverse les temps modernes, qui traverse les temps contemporains et qui positionne en 1914 la domination réelle. Et tout notre travail, est un travail de mise à jour des perspectives dialectiques du temps long. Le temps long n'est pas le résultat des faits qui s'additionnent et qui produiraient une période, qui s'additionnerait à d'autres périodes et qui produirait le temps long, qui ne serait que le résultat. Le temps long est contenu dans le début. En dernière instance, il y a tout le temps long dans le fait du début, tel que le fait du début est aspiré historiquement par la dialectique des forces productives de la totalité, de telle sorte que cette totalité travaille à réaliser la substance globale de l'unicité historique dans la radicalité totale des forces productives de la production de son historicité. J'ai le temps mérovingien, j'ai le temps carolingien, j'ai le temps capétien, j'ai le temps des Valois, puis après j'ai le temps des Bourbons, après j'ai la Révolution, mais tout ça travaille dans une unité dialectique qui s'appelle le déterminisme de l'histoire. Et le déterminisme de l'histoire, tel que nous l'avons posé en 1985 et 1990, en disant, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, le temps long, l'unité dollar va s'invalider et ce sera la clé. Mais quand en 85-90, nous disons l'unité dollar, elle va s'invalider. De la même manière qu'à la même époque, nous disons le système capitaliste d'État soviétique va s'effondrer. On n'a pas le cul dans la factualité, l'œil et les mains prisonniers dans la surfacerie empirique des choses. On travaille dans le long terme. Dans les années 85-90, les groupuscules de la décomposition, qui parlent, ils sont prisonniers d'un soviétisme dont ils ne voient pas la mort, et ils sont prisonniers d'une hégémonie dollar dont ils ne voient pas la mort. Pour pouvoir voir la mort du soviétisme qui va s'effondrer dans la crise totale du capitalisme d'État russe, puis de toutes ses périphéries, et pour comprendre dans les années 85-90 que le grand enjeu de la crise terminale, c'est la crise ultime de l'étalon dollar, faut travailler par-delà le fait, par-delà la période, dans le temps long. Celui qui ne travaille pas dans le temps long ne peut rien comprendre au fait et à la période, puisque le fait et la période n'ont pas de scénario autonome, ils sont validés par la dialectique en dernière instance du temps long de la formation sociale. Donc, le travail que nous allons faire ce soir est le travail d'élucidation du temps long. Ce n'est pas une explication des faits, ce n'est pas une explication des périodes, c'est une compréhension dialectique du travail de la prévision de l'époque qui va nous permettre de comprendre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et que personne ne comprend, parce que personne ne le comprend dans le cadre déterministe de la dialectique historique des formations sociales. On reviendra sur les notes sur Wagner, parce qu'on a eu des questions sur les notes sur Wagner, et je prends un exemple tout simple, je prends un exemple tout simple, les pro-Poutine ou les pro-Trump comprennent pas ce qui se passe. Et les anti-Trump disent, ah c'est bien, il revient à une option plus ou moins ukrainienne. Bon, tout ça, c'est de l'écume des choses, c'est de la foutaise, c'est ne pas comprendre que Trump, Poutine, Zelensky, Netanyahou n'ont pas d'autonomie et que c'est effectivement la dialectique de la crise de la baisse du taux de profit et la contradiction valeur d'usage, valeur d'échange, telles qu'elles sont posées dans les notes sur Wagner et telles qu'on les fait rentrer dans le sixième chapitre, nous permettent de comprendre le temps long. On n'a pas en 1985-1990 compris le temps long de la crise de l'étalon dollar parce qu'on avait une baguette magique, mais parce qu'on avait une clé méthodologique. Et quand dans les années 85-90, vous disiez, vous assumiez de dire qu'on était déjà rentré dans la crise d'auto-invalidation du dollar, les gens vous regardaient avec des yeux comme ça, parce que dans le fait, dans la période, l'époque qui travaille à 30 ans, qui travaille à 40 ans, était incapable de comprendre ce qu'était cette réalité-là. Donc, comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale? On n'a pas dit comment s'ouvrira la factualité de la révolution sociale. On n'a pas dit comment s'ouvrira la période de la révolution sociale. On a dit comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale. Ça veut donc dire que la révolution sociale n'est pas un acte soudain, d'immédiateté, c'est un long travail d'enfantement, c'est la maïeutique d'une époque. C'est-à-dire que le travail de prévision sur lequel on va revenir, comment, à travers les textes de Bordiga, à travers les textes de Marx et Engels, à travers les textes de Rosa Luxembourg, que l'on a positionné en citation et qu'on vous demande de lire avec précaution, intelligence, ardeur et méthode. Comment on comprend le comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale? On comprend que la crise ultime de dollars qui se profile et sur laquelle on va revenir, qui est ce qui ouvre le chemin de l'équivalence centrale fétichiste dans son procès de caducité, tel qu'il voit la mort du capitalisme sénile et drogué, c'est quelque chose qui nécessite la compréhension du temps long de la crise catastrophique du taux de profit du capitalisme sénile et drogué, qui ne peut pas exister, le taux de profit, sans l'expansion de son expansion, le génitif. C'est le mouvement du mouvement. Et cette expansion en son génitif, elle s'invalide dans une période qui voit que le dollar ne peut plus fonctionner, alors même qu'il peut encore fonctionner. Que le dollar n'a plus la puissance de l'histoire, mais qu'il est encore la puissance de l'histoire. C'est le nœud dialectique contradictoire. L'auto-invalidation, c'est le moment où toute l'auto-présupposition se renverse. Et c'est ça qu'on va vous expliquer ce soir pour que on saisisse bien que la Gazette radicale de la crise terminale du capital, qui mois après mois va rappeler la variance, toujours rappeler le même principe du seuil du développement dialectique. Nous allons constamment réitérer la même vision historique. Mais en la prolongeant à chaque fois, parce que l'époque est en train elle-même de nous dire, à travers la période et à travers les faits, que tout ce qui a été prévu depuis 40, 50 ans sur la base du travail méthodologique du groupe Marx-Engels est aujourd'hui pleinement confirmé.
Vous avez parlé, et pour appuyer justement sur le temps long, on est à un moment de l'histoire, là, au moment où nous sommes, nous avons la chance d'avoir tout sous les yeux. Alors, tout sous les yeux, entre guillemets, tout sous les yeux, à condition de se mettre sur le chemin de compréhension et de vouloir comprendre, comme on l'avait dit, la factualité de tous les faits, de tout ce qui met, ce qui se passe, tout ce qui le met en mouvement, et donc de comprendre le monde de production capitaliste qui produit la totalité de ce qui se passe dans le monde, de la vie du monde et du monde de nos vies à nous. Et si on creuse toutes les insurrections qu'il y a eu de par le monde, en Europe et en France, et pour être sur la France, qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qu'il y a comme mise en mouvement derrière, je prends un exemple français, la Révolution française, c'est quoi la vérité de la Révolution française? On peut poser la question, c'est quoi la vérité de mai 68? On dira un mot certainement sur l'euthanasie, on fait l'émission si on a le temps, mais c'est quoi la vérité de l'euthanasie? Et à chaque fois, malgré ce qui nous est donné à voir, ben la vérité, c'est pas ce qu'on donne à avoir, c'est pas la factualité, c'est la compréhension du mouvement qui a généré ça. Et à chaque fois, c'était la dialectique de la marchandise. Alors, dire dialectique de la marchandise, c'est facile à dire. Parler de la dialectique du déploiement des forces productives aliénées par la valeur d'échange, sauf que c'est facile à dire. Ça peut paraître trop déterminé, mais c'est bien cette détermination-là qui, en dernière instance, surdétermine tout ce qui se passe. Et malgré tout, tous ces événements, toutes les émotions, tous les combats, tout ce qui a pu se passer, à chaque fois, la surdétermination, c'est la dialectique du déploiement des forces productives aliénées par la valeur d'échange. Et ça, c'est majeur à comprendre, puisqu'on rentre dans un moment de l'histoire où on va vers quelque chose où il n'y aura pas de restructuration supérieure. Une fois que l'unité dollar ne pourra plus produire sa faisabilité, il n'y aura pas de restructuration supérieure. Et donc, on vit une époque, malgré les apparences, même si c'est dur, mais formidable, dès le moment où on se met sur ce chemin de compréhension de ce qu'est, et c'est pas quelque chose de simple, mais même si c'est pas simple, il faut bien un premier pas, donc se mettre sur le chemin de la compréhension de la dialectique de la marchandise. Et évidemment, le prolétariat, qui n'est pas sur ce chemin pour l'instant, mais il le comprend pas, il le conscientise pas. Mais la vie, la réalité fait que le prolétariat l'éprouve ça. C'est-à-dire, il éprouve quand on voit des manifestations avec l'hôpital n'est pas à vendre, la santé n'est pas à vendre, ou la planète n'est pas une marchandise. Le négatif de ça, le corps n'est pas une marchandise, mais ça dit bien que en négatif, oui, le corps est une marchandise. Subjectivement, c'est pas perçu comme ça. On dit que ça n'est pas ça. Sauf que la compréhension de la dialectique de la marchandise fait que objectivement, c'est bien cette dialectique qui, en dernière instance, surdétermine tout ce qui se passe. Et j'insiste sur le fait que on a les outils de se mettre sur le chemin au travers du groupe Marx Engels, du Capital, de l'idéologie allemande, et tout ça, c'est pas simple, mais c'est se mettre sur ce chemin-là, c'est la chose la plus pertinente de s'armer pour les temps qui viennent. Et tout le reste, c'est on va dans des cul-de-sac. La centralité est là. Voilà, j'insistais sur, je revenais sur le temps long. Quand on regarde le temps long, on pourrait avoir une mémoire encyclopédique et connaître tous les faits. Si on ne saisit pas la détermination du mouvement qui font que ces faits se suivent l'un et l'autre et qu'il y a une logique, que c'est cette logique-là de la dialectique de la marchandise. Si on ne saisit pas ça, on peut être un cerveau immense et ne rien comprendre à la réalité de ce qui fait l'histoire.
Pour remettre une petite couche sur cette question du temps long, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. En ce moment, il y a des republications qui visent d'un bouquin notamment de Lénine sur le gauchisme, maladie infantile du communisme. Pourquoi, en 2025, des bouquins comme ça sont reproduits? Précisément parce qu'il n'y a pas la compréhension et le désir d'incarnation dans la compréhension du temps long. C'est précisément l'impatience narcissique de Lénine en 1917, comme de ceux qui le republient en 2025, qui fait que on s'accroche à la nécessité de mettre en avant le besoin d'une avant-garde qui va mettre en mouvement quelque chose qui n'est pour le moment, dans l'espace visible immédiat, pas mis en mouvement par lui-même. Je parle du prolétariat. Marx, on a mis des citations alors je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, ça doit être au début, sur les thèses sur Feuerbach, Marx parle d'auto-transformation. C'est l'inverse de Lénine, mais par définition, si je suis un penseur de l'auto-transformation, je suis contraint, ou plutôt, si j'accepte, seulement si j'accepte de m'incarner dans le temps long, alors je peux comprendre et penser l'autotransformation du prolétariat. Parce que le prolétariat, dans l'apparence visible, celle qui occupe tout le monde en permanence, dans l'apparence visible, le prolétariat, ben, il ne bouge pas. Donc, il y a ceux qui se disent que les Français, plus rien ne va, et puis ils sont devenus des loques, ça ne bouge plus. Et puis il y a ceux qui se disent comment on va remuer les loques? Et hop, on va rechercher Lénine, parce qu'il faut retrouver un moyen de remuer ce qui apparaît comme irremuable. Sauf que ça me fait penser à la phrase de Marx sur, c'est dans le 18 Brumaire, sur la répétition historique du temps 1 tragique et du temps 2 comique. Il faisait référence au Napoléon oncle et Napoléon le neveu. Parce que Lénine en 1917, c'est tragique. Mais Lénine en 1925, c'est comique et c'est tragicomique. Parce que justement, c'est une conscience qui, dans l'impatience de vouloir bouger ce qui ne bouge pas dans l'espace visible, s'excite malgré la leçon historique qui a eu lieu, qui n'était pas là, même si justement les gens que Lénine critiquait à l'époque, eux, étaient déjà sur la conscience radicale, alors que on pouvait se laisser embringuer si on n'était pas radical. Mais maintenant, une leçon historique est faite et on est obligé d'aller rechercher des solutions et même de moquer ce qu'ils appellent le spontanéisme, parce que justement, visiblement, il n'y a pas de spontanéité. Mais alors, on en revient à la question du seuil, qui est le temps 2. Qui fait que ça va bouger. Le prolétariat, c'est pas une masse de gens qui est là, et de l'autre côté, l'économie qui suit son cours crisique, et tout ça serait séparé, etc. L'économie, c'est la production du prolétariat aliéné dans l'économie. L'économie, c'est le monde du prolétariat en pratique. Le seuil donné qui fait que le prolétariat cesse d'agir dans le sens de la reproduction d'économie politique, c'est celui qui fait que l'économie politique, dans sa dialectique de longue durée dont parlait Maurice, ne peut plus reproduire les conditions qui rendent nécessaire le fait que le prolétariat réalimente ce système. Mais tout le monde, je parle du mot système, tout le monde parle du système maintenant, mais personne n'a une pensée systémique du système. Le système, c'est un machin qui n'est jamais systémique dans la parole des gens. C'est un machin en face qui n'est donc pas système. S'il est en face séparé, c'est pas système, c'est une force extérieure. Le système, et il faut reprendre Hegel, le système, c'est la logique de la totalité. C'est la totalité. Tout le monde est le système. Tout le monde alimente le système. Tout le monde participe au système. Donc le prolétariat est le système. Le prolétariat n'est pas écrasé par le système. Le prolétariat est écrasé dans un système qu'il reproduit, qui n'est rien d'autre que son action. Et donc je voulais, on va rebondir ensuite sur les autres points, le dollar, etc. Mais je voulais appuyer là-dessus, parce que comme par hasard, on arrive à un stade historique où on va en parler, tout patauge, l'Ukraine, ça ne bouge pas, la France, il ne se passe rien sur le terrain économique, rien sur le terrain politique, on fait même des lois sur l'euthanasie, etc. Plus rien ne bouge, et donc nécessairement, mais les gens qui pensent ça ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que l'expression de la pensée nécessaire du système. Le système doit penser de fait comment on va faire bouger, sous le mode de la réforme, mais aussi sous le mode décidant de la réforme aussi. Et donc, comme ça ne bouge pas, comme de par hasard, on va ressurgir des publications qui cherchent à trouver le moyen de faire bouger dans l'impatience narcissique qui ne s'incarne pas dans le temps long.
Juste avant que vous poursuiviez, Francis, par rapport à ce que dit Michel sur le prolétariat actuel, le prolétariat français qui ne bouge pas, qui est apathique, on pourrait dire ce que je viens de dire là, bon, en France, parce qu'on entend face à des, il y a, y a des informations qui sortent dans d'autres pays où il y a des dénonciations de ce qui s'est passé avec la mythologie coronavirale. Il y a des choses qui se font sur la France, c'est le pays qui reçoit le plus d'immigration. Et dans les soubassements de la formation sociale de France, il y a pour l'instant, même si c'est passif, il y a une résistance à l'implantation face à la submersion qu'il y a, et face à tout un tas d'informations qui sortent d'ailleurs. Mais on peut entendre, bah, les Français, ils sont mous, ils sont. On voit que vraiment en France, on est des patachons, et la compréhension, mais dialectique et et de l'histoire, et notamment de la France, montre que c'est exactement le contraire. S'il y a des choses qui sont freinées en France, c'est que il y a la profondeur historique, et récemment on a eu les gilets jaunes. Tout ça pèse, et il y a un instinct du capital qui sait tout ça. Et dans les temps à venir, tout ça c'est pris en compte, même si c'est pas forcément tout le temps conscientisé. Mais il y a ce que on rentre dans des temps où l'eau est calme, mais dessous ça commence à bouillir. Voilà, contrairement aux apparences.
Alors, moi, je reviendrai, si vous voulez, sur le concept clé qui nous permet de comprendre tout ça, c'est le concept de l'implication réciproque. C'est-à-dire que contrairement, et c'est le grand débat de la Première Internationale, c'est le grand débat de la Première Internationale qui permet justement au groupe Marx-Engels d'envoyer balader tous les blanquistes, tous les proudhonistes, toutes les sectes constructivistes et d'envoyer balader, avant même que la secte constructiviste léniniste qui construira le capitalisme d'État ne surgisse, toute la faune bolchevico-trotsko-mao qui surgira après. C'est-à-dire que effectivement, comme l'a dit Michel, le mouvement révolutionnaire est un automouvement. Le mouvement révolutionnaire est une autoconstruction qui n'est compréhensible que dans l'implication réciproque. Parce que le capital n'est pas quelque chose qui pèse sur le prolétariat, c'est pas une pesanteur domesticatoire externe, c'est la réalité substantielle de l'implication réciproque qui fait que le prolétariat crée le capital crée le prolétariat, et le prolétariat crée la reproduction possible du capital qui crée lui-même la reproduction possible du prolétariat. Et qu'est-ce que l'histoire du capital? C'est l'histoire de la modernisation de cette implication réciproque de crise en crise, de restructuration supérieure en restructuration supérieure, jusqu'au moment où la biologie de toutes les restructurations supérieures bute sur l'impossible reproduction ultime, sur l'impossible restructuration dernière. Donc la crise du capital, c'est pas parce qu'on organise les gens contre le capital, c'est parce que le capital s'auto-invalide, qu'en s'auto-invalidant, il permet au prolétariat d'auto-invalider la passivité systémique, pour reprendre ce que vous disiez, qui effectivement ne peut plus reproduire le système. Mais en disant ça, j'ai posé ce que pose Bordiga en reprenant à la fois Luxembourg et Marx, même si c'est dans une perspective totalement contraire sur toute une série d'aspects, le capital et sa biologie, et la biologie du capital et sa nécrologie. Et au bout, il y a la mort. Dans les citations, non pas pour cette émission-là, mais dans les citations pour essayer de doper un peu les gens, et c'est là où on fait la différence radicale entre le jacassé écumier et la construction dialectique des profondeurs. C'est-à-dire que si on était tous les trois à papoter entre nous en feuilletant un peu de Marx, un peu de Luxembourg, on n'irait pas très loin. Ce qui compte, c'est l'articulation organique, anonyme et impersonnelle du cœur méthodologique. C'est quand nous parlons de la réalité objective et que nous produisons des citations, c'est parce qu'elles éclairent une continuité organique de méthode, d'invariance, qui fait que le logos radical de la lutte des classes communistes est à l'inverse du papoté distractif, même le papoté distractif culturel qui parlerait de Rosa Luxembourg ou de Karl Marx. C'est la méthode qui va au bout de la compréhension dialectique, de la mise en perspective. Et donc, dans toutes ces citations que nous avons produites, la dernière page de citations que nous avons produites nous a permis de rappeler un texte de Bordiga qui est extrêmement important, qui s'appelle Homicide des morts. Et ça nous renvoie à ce qu'est l'usine globale. L'usine globale, c'est la réalité totale de la domination réelle supérieure. La réalité totale de la domination réelle supérieure, et c'est pour ça qu'on va pouvoir élucider la dialectique de l'euthanasie, non pas comme une factualité, mais comme la clôture historique du capital. Homicide des morts, s'il y a homicide des morts, c'est que dans la réification supérieure, il n'y a que des morts vivants. L'euthanasie, on va y revenir, il veut pas tuer des vivants. Il veut que les morts vivants deviennent des morts morts. Il va au bout de la logique aliénatoire, de la réification et de l'abrutissement de l'atome narcissique absolu de la valeur d'échange. On a parlé du populicide, on a parlé de l'historicide. C'est quoi un homme contemporain? C'est un abruti ahuri de l'usine globale de la valeur d'échange totalitaire. C'est-à-dire que l'absorption par la substance monde de l'aliénation fait que chaque homme est absorbé et devient un mort-vivant de l'usine globale. Il a encore des fonctions biologiques, il a encore des fonctions narcissiques, il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes, il est éventuellement capable de faire des enfants, mais tout ça dans une perspective atomisée, du cloaque narcissique qui a perdu le lien avec l'histoire. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est un être biologique dont la naturalité va au bout d'elle-même pour saisir l'être générique conscient de l'historicité. Qu'est-ce qu'un homme contemporain de l'usine globale? C'est un déchet de la capitalisation, c'est un mort-vivant. Pourquoi est-il mort-vivant? Il est tout seul chez lui dans la solitude. Il n'a aucun rapport à l'histoire. L'histoire comme action. Il est marié, il a deux enfants, le premier fait du judo, le deuxième va à la piscine, on prépare les vacances d'été. Quel est le rapport à l'historicité? À supposer qu'il y a un contenu culturel qui traverse l'individu atomisé mort-vivant ou la famille atomisée mort-vivant. L'histoire est un décor, c'est une épopée distractive. On se passionne éventuellement pour Louis XIII ou pour Henri IV, pour les Romains ou pour l'expressionnisme. On peut trouver que Bach est passionnant. On part dans quelque chose d'historique, mais qui est déshistoricisé. L'homme contemporain est un mort-vivant parce qu'il a des fonctions biologiques narcissiques, éventuellement culturelles, distractives, de savoir élaborer, mais totalement coupées de l'historicité radicale de la transformation. Qu'est-ce que l'homme vivant? C'est l'homme de la transformation qui se transforme en permanence, qui veut transformer le donné initial et qui a la capacité historique d'intentionnalité, d'élucidation et de transformation. Qu'est-ce que l'homme de l'usine globale totale dans la crise ultime de la réalisation capitaliste? C'est le mort-vivant absolu, c'est l'abruti absolu dans le rapport social de l'abrutissement universel. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si à la fac, je découvre Marx, ça ne pourra être que de l'abrutissement jacassien. Parce que tout est devenu de l'abrutissement jacassien, même ce qui est le plus substantiellement anti-abrutissement et anti-jacassien. Parce que la substance du capital, c'est, dans le cadre de cette baisse du taux de profit qui est la réalité organique de la formation sociale, la totale phagocytose du travail vivant par le travail mort. Mais la totale phagocytose du travail vivant par le travail mort, c'est la totale phagocytose de la vie par la mort. Donc les gens ont toujours une vie gastrique, une vie intestinale, ils sont bien vivants, mais ils ne sont pas vivants à titre humain. Ils sont vivants à titre de morts-vivants aliénés dans la réification totalitaire de la reproduction du fétichisme de la marchandise. Dans leur solitude comme dans leur couple, dans leur culture comme dans leurs incultures, ils ont, entre guillemets, produit la césure avec l'historicité de transformation. Ce sont donc des cadavres vivants. Et la formule de Bordiga est importante. Qu'est-ce que l'euthanasie? C'est l'homicide des morts. On va faire passer les morts vivants à l'état de morts morts. Mais la domination réelle du capital, on en a parlé à plusieurs reprises dans le cadre de ce que nous avons souligné du débat sur les lois de population telles que Marx les positionne dans son débat contradictoire à Malthus. Il y a des lois de population entre la domination formelle, la domination réelle, la société féodale, la société capitaliste, et la grande réalité substantielle de la loi de population de la domination réelle, c'est la loi de surpopulation relative. Contrairement à l'antériorité où il y avait des lois de surpopulation absolue. Surpopulation relative, puisque c'est le taux de profit, c'est le taux de profit, la crise du taux de profit qui positionne la totalité de la structuration de la formation sociale et donc de la formation sociale de la reproduction de la population. Donc, contraception chimique, avortement généralisé et au bout, euthanasie généralisée. Le tract que nous avons fait en synthèse, il montre ce qu'est l'usine globale. Il montre ce qu'est l'usine globale dans l'industrie de la mort, ce que dit Bordiga, ce gigantesque monstre qui s'appelle la mort du capital, le travail mort du capital, mais il montre en même temps l'autonomisation narcissique absolue. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix pour la contraception, mon corps, mon choix pour l'avortement, mon corps, mon choix pour l'aide à mourir dans le cadre de l'euthanasie du capital. C'est la clé de voûte de l'atomisation narcissique de la domination réelle. La propriété, c'est le vol. Le vol, c'est la propriété. Et mon corps, mon choix, mon corps m'appartient, c'est le terme ultime de l'aliénation appropriative du capital. On l'a dit à plusieurs reprises, dans les communautés de la longue durée historique d'avant le néolithique, les chasseurs-cueilleurs d'Amérique, les tribus germaines, il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré, parce qu'il n'y a pas de profanation. La domestication de l'être par l'avoir n'a pas eu lieu, et donc tout est sacral. Le corps est sacral, la chasse est sacrale, embrasser est sacral, faire un enfant est sacral, prendre un poisson dans la rivière est sacral, tuer un cerf dans la forêt est sacral, parce que tout est communion d'anti-appropriation dans la réalité cosmique d'une communauté communiste qui n'est pas universelle telle que la sera la communauté communiste de demain, mais qui est déjà dans ses limites même la compréhension de l'inappropriable. Qu'est-ce que le sacral? C'est l'inappropriable. Personne ne peut dire cette rivière est à moi, ce poisson est à moi, ce territoire est à moi, le pouvoir est à moi, puisque le pouvoir est une immanence anti-hiérarchique qui échappe à la détermination de la valeur d'échange, qui n'a pas encore mis en mouvement la dictature appropriative. Le grand slogan de l'atome narcissique, de la démocratie totalitaire de la valeur d'échange, mon corps est à moi, c'est absorber son corps dans une pathologie de la propriété. Mon corps n'est pas à moi. Ce n'est pas une propriété. Mon corps est la substance de mon désir générique, sans limite, dans l'infini de l'anti-appropriation. Mon corps n'est pas à moi. Il est dans la jouissance infinie de mon accomplissement. Ce qui n'est pas une propriété, ce qui n'est pas une appropriation, c'est une anti-appropriation, parce que c'est le cheminement du singulier vers l'universel. Donc il n'y a rien de plus con que cette phrase capitaliste, mon corps, mon choix, elle est le vecteur de l'accumulation du capital dans la reproduction des flux démographiques nécessaires, avortement, contraception et donc euthanasie. Mais quand nous disons tout à l'heure, et on va y revenir, que derrière la crise ultime du dollar se profile celle de l'équivalence centrale fétichiste du travail mondial de la valeur d'échange. Qu'est-ce que c'est que la crise finale de l'équivalence centrale fétichiste? C'est la crise ultime des trois fonctions de la monnaie qui ne sont pas des fonctions objets, mais des fonctions aliénatoires du fétichisme. La monnaie est l'unité de compte de l'aliénation universelle du fétichisme de la marchandise. Elle est la réserve de valeur de l'aliénation du fétichisme de la marchandise, et elle est l'intermédiation des échanges du fétichisme de la marchandise. Mais ces trois fonctions ne sont pas séparées. L'unité de compte, elle se dialectise dans la réserve de valeur. La réserve de valeur, elle se dialectise dans l'intermédiation des échanges. Et dans l'intermédiation des échanges, il y a au bout du processus fétichiste de la réification, la réalité objective de la relation de chaque homme à lui-même et de chaque homme aux autres, dans cette solitude du mort-vivant ou dans cette réalité de couple de mort-vivant. Donc, toute l'humanité aujourd'hui dans l'usine globale est réduite à l'état de mort-vivant. Et on l'a bien vu au moment de la crise coronavirale, la crise coronavirale a été le moment de mise en friche qui découlait de la crise des taux d'intérêt des équivalences centrales fétichistes de 2018. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise du coronavirus? On a vu d'un côté la passivité totale à l'ordonnancement policier et de l'autre côté l'agitation narcissique de morts-vivants qui avaient peur qu'on les injecte dans leur agitation narcissique, mais contre-révolutionnaire. Et alors ce qui est passionnant, c'est que ceux qui étaient pour la vaccination se sont définitivement endormis dans une reproduction statique, mais ceux qui se sont agités contre la vaccination, où ils sont aujourd'hui? Ils sont dans la décrépitude des morts-vivants de Laval. Aujourd'hui, ils sont fétichisés par les résultats secondaires des vaccins. Mais en 2 ans, ils n'ont toujours pas fait le travail de l'amont. D'où viennent les vaccins? C'est-à-dire que toute cette agitation anti-vaccin, alors que nous avons démontré que la crise coronavirale était le produit de la baisse du taux de profit, la baisse du taux de profit qui a nécessité un quadrillage policier, un quadrillage d'angoisse. À partir du moment où le capital ne peut plus actionner la sphère du plaisir réifié propre aux années 60-70, il a positionné l'angoisse réifiée. Mais aujourd'hui, alors vous discutez avec les gens qui vous disent: Ah oui, j'ai bien fait de me faire vacciner. Ou alors, ah ben non, heureusement qu'on a bien fait de ne pas faire vacciner, ils voulaient nous tuer. D'ailleurs, vous avez vu tous les effets secondaires. Mais que je sois dans l'effet secondaire ou que je sois dans l'acceptation, je suis un réifié abruti de l'usine globale de la valeur d'échange. Parce que qu'est-ce qu'il y a au bout de cette expérience de la vaccination coronavirale acceptée ou refusée? Il y a justement le surgissement dialectique de l'époque, de la baisse du taux de profit impossible. Qu'est-ce qu'il y a là? Le capital nous a dit, entre 2018, la mise en jachère et la dynamique dictatoriale des vaccins, que le rapport de production ne pouvait plus fonctionner parce que le niveau atteint par la saturation du marché mondial indiquait une baisse du taux de profit telle que ça ne pouvait plus faire fonction, qu'il fallait donc passer à la dimension supérieure du populicide. On ne veut pas nous injecter pour nous injecter. Alors vous avez tous les couillons anti-vax, ah oui, Big Pharma, Davos, mais Big Pharma, Davos, ça n'existe pas. C'est les résultats ultimes des larbins du capital dans leur conclave de pauvres airs de metteurs en scène. C'est la baisse du taux de profit qui organise toute cette réalité-là. Et si je ne le comprends pas, je suis un abruti de l'usine globale des morts-vivants. Des morts-vivants. Donc, la question centrale, c'est de voir comment la baisse du taux de profit, la mise en friche, la crise coronavirale, le contrôle policier et les anti-vax comme opposition interne au système sous contrôle pour ne pas déboucher dans une compréhension radicale de la baisse du taux de profit. Puis l'étape supérieure de la dialectique de l'angoisse, l'étape supérieure de la dialectique de l'angoisse. L'étape de la dialectique de mort, Bordiga, l'homicide des morts. L'euthanasie arrive en fin de parcours. En fin de parcours, quand la crise ultime est en train de produire les conditions de sa réalité totale, c'est-à-dire la crise ultime réelle, l'euthanasie est le dernier plan de vie du capital pour l'humanité mort-vivant dans l'usine globale de la schizophrénie mégapolitaine du capital. Donc tout se tient, et tout se tient dans une parfaite ligne directrice depuis les travaux de prévision du groupe Marx Engels, le travail mort. Marx n'a pas choisi l'expression travail mort par hasard pour rendre compte de la cristallisation de la plus-value dans l'ordre machinique de cette gigantesque machine de mort dont parle Bordiga et dont Marx parle quand il dit que le capital est un vampire qui suce le sang des vivants, mais et qui suce le sang des vivants vivants, puis le sang des morts vivants, puis le sang des morts morts. Donc on est au bout. Comprendre la dynamique ultime de l'euthanasie, c'est pas simplement se dire: Ah ben le capital, il évacue sur coût. Il évacue sur coût parce que les soins palliatifs, c'est cher, mais bon, l'euthanasie sera moins chère, bien évidemment. Mais derrière tout ça, il y a toute la projection du hiéroglyphe de la section 1, du livre 1, du tome 1. Le capital est en train de nous donner la clé de voûte de son historicité. Le capital est en train de mourir. Le capital est en train de mourir. Et le capital, dans sa crise, il est suraccumulation de capital. Qu'est-ce que la crise? C'est une suraccumulation de capital. Mais c'est une suraccumulation de marchandises capital. Et c'est une suraccumulation de capital homme. Et donc, cette suraccumulation, on a eu le populicide vendéen, puis on a eu tous les populicides que la gauche du capital a organisés contre le prolétariat, la Commune de Paris, la Commune de Berlin, la Commune de Barcelone, la Commune de Kronstadt, la Commune de Budapest, tous les massacres généralisés. Mais là, on est au bout, on est au bout, on est au bout de la course. Mais cette course, si j'ai pas compris que la prison coronavirale n'était pas un délire de Big Pharma simplement cumulatif en besoins financiers supérieurs, mais que c'est la réalité objective de la baisse du taux de profit, je ne comprends rien. Et si je ne comprends rien là, je ne comprends rien à l'euthanasie, qui est la dernière carte d'identité du capital, mais elle est la dernière carte d'identité du capital parce que le capital a homicidé la conscience humaine. C'est parce que dans l'usine globale, il n'y a plus d'êtres vivants. Il y a les morts vivants, point final, hormis les quelques groupes radicaux qui positionnent la radicalité d'au-delà des morts vivants, mais il est facile de conduire les morts vivants à la mort-mort. Alors, par-delà le spectacle parlementariste du crétinisme absolu, il y a eu aucun sursaut, et ça c'est normal, il n'y a eu aucun sursaut prolétarien de masse par rapport à la linguistique orwellienne, c'est-à-dire que l'obligation de mort est une aide à mourir qui va vous faire crever, mais c'est pour votre bien, c'est une aide à la dignité, c'est-à-dire la métamorphose langagière est passée. La métamorphose langagière est passée. Et tout le monde se dit, bah, finalement, c'est pas plus mal, parce qu'il y a l'angoisse. La gigantesque angoisse du vaccin, l'injection, s'est transmutée à l'envers dans la gigantesque angoisse de cette douleur terminale qui va me frapper. Et comme effectivement, il n'y a plus de cadre humain objectif permettant, dans un cadre collectif de tendresse, d'amour et de vrais soins palliatifs, vous avez plein de gens qui sont rassurés. Ils se disent, quand je vais vraiment souffrir, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Donc on a l'euthanasie et la dialectique supérieure des forces productives, des lois de population en mouvement pour l'usine globale de la domination réelle supérieure, telle que cette usine globale n'est composée que de morts vivants, qui n'ont plus aucun rapport à l'historicité et qui vont donc accepter ça comme quelque chose de naturel. Et là, on en revient à la loi sur l'avortement. Quand la loi sur l'avortement a été mise en marche par Chirac et Simone Veil avec un V, ce que Simone Veil avec un V, c'est l'antithèse radicale de Simone Veil avec un W. Tout ce qu'a fait V est le contraire de tout ce qu'a fait W. Simone Veil est montée à la tribune de l'Assemblée nationale et elle a dit l'avortement est une tragédie, c'est quelque chose qu'il faudra toujours limiter aux cas les plus dramatiques. C'est exactement ce qu'on nous a fait pour l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on commence à petit débit, et puis on ouvre le débit, et puis on ouvre le grand débit. Le capitalisme, dans ses flux démographiques nécessaires, fait disparaître 250 000 fœtus chaque année, qu'il retranscrit dans les laboratoires de la chimie du capital, parce qu'on ne perd rien. 250 000 tous les ans. L'euthanasie va avancer doucement, mais le processus sera le même parce que le capital fonctionne toujours dans ses formations idéologiques de mystification avec les mêmes hiéroglyphes et les mêmes rythmes de vitesse. Et on aura très rapidement ce qui se passe déjà au Canada, en Belgique ou en Suisse, et puis après, beaucoup plus, beaucoup mieux. Ce sera l'homicide des vivants. Mais tout ça, il faut le comprendre par rapport à la crise du capital. Le capital, tant qu'il n'a pas atteint la crise de la domination réelle, il a des flux de croissance, il a des flux de taux de profit, il a des flux de population, il a des flux de positivité de production. Les accords de la Jamaïque, la loi sur l'avortement, la loi sur la contraception. le remplacement tel que prévu par Marx, mis en mouvement par le CNPF, puis par le MEDEF, tout arrive après les années 70 qui correspondent à l'entrée dans la domination réelle supérieure. Dans la domination réelle supérieure, qui est le temps qui conduit à la crise ultime de capital, à la crise ultime du capital, le capital doit adapter l'usine globale à la réalité de la mort qui vient du capital et que le capital ne peut pas contrôler. Donc tout depuis 1970 est dans l'usine globale de la schizophrénie mégapolitaine du capital, disparition de l'histoire radicale, historicide et populicide du trop-plein. Populicide des surnuméraires, fœtus, ovules, spermatozoïdes et petits vieux, mais pas que petits vieux, dépressifs, malheureux, tristes, pauvres, prolétaires égarés. C'est-à-dire que c'est la gigantesque machine dont parle Bordiga, c'est le monstre du capital qui élimine tout ce qui est surproduction humaine. Puisque la surproduction humaine n'est qu'une variable d'ajustement de la surproduction du marché.
Vas-y.
Vous avez parlé de la mise en friche, et c'est vrai qu'il y a eu cette mise en friche par l'intermédiaire de la mystification coronavirale, mais cette mise en friche, ce n'est pas la mystification coronavirale qui a créé une mise en friche, il y avait une nécessité de mise en friche du mode de production, et donc il y a des scénarios, il y en a plein, il y a des gangs capitalistes qui s'affrontent aussi entre eux, il y a des scénarios, il y avait un scénario coronaviral, donc si on le creuse, évidemment, on va y mettre des noms dessus, on peut y trouver des financements, des cercles de pouvoir, on peut trouver tout un tas de choses, mais scénario coronaviral, ça aurait très bien pu être un scénario passe climatique mondial, ça aurait pu être un bug informatique mondial, fait, je dis ça sans. Tout ça, c'est des scénarios en cours et celui qui ressort, c'est pour ça qu'on parle d'immanence et souvent le mot immanence, on l'associe à immédiateté peut-être, mais c'est pas ça. Immanence, ça veut dire que le scénario de la mystification coronavirale, c'était le plus adéquat au moment, aux conditions du moment, et c'est lui qui est sorti là. Donc, c'est pas un claquement de doigts. Bien sûr qu'il y a une histoire derrière, on peut enquêter, on peut. Mais comme vous l'avez dit, si on rentre dedans, on va trouver tout un tas de raisons, d'idéologies, et au final, on se retrouve. On en sait un peu plus sur un sujet de factualité, et on comprend toujours rien au mouvement et au temps à venir. Et juste un mot sur l'euthanasie dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. Vous parlez de l'homo heidelbergensis, donc il y a 530 000 ans. Donc souvent on nous dit vous remontez loin jusqu'à 10 000 ans, 12 000 ans au néolithique. Donc là 530 000 ans. Allez. Et donc vous parlez de ces chasseurs-cueilleurs. Il y a le feu où il y a une vie, il y a une de par les traces qu'on voit des restes d'eau, comment ils travaillent comment ils décortiquent la viande, comment ils récupèrent tout, et vous mettez en avant le fait qu'on retrouve dans des os d'une jeune fille qu'on arrive à dater à peu près de 10 ans une maladie génétique qui fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer et que le fait qu'elle ait vécu, je dis 10 ans, c'est peut-être plus, je sais pas, mais toujours est-il qu'il y a quelqu'un devrait mériter l'euthanasie selon
Ah bah oui.
bientôt les critères. Et cette fille,
Elle
elle a
était
été,
éligible, elle était éligible.
voilà, elle était élue. Elle a été, elle a été transportée. Au final, elle a été aimée, quoi, tout simplement. Elle a vécu malgré ses. Et quand on voit, il y a 530 000 ans, il n'y avait pas encore le mode de production capitaliste, donc qui a démarré qu'il y a au néolithique, mais comment tout s'est accéléré pour en arriver aujourd'hui à la démocratie pure, qui est la démocratie pure de la chosification, parce que c'est ça quand on parle de travail mort, le travail mort machinique, mais qui pénètre, fait, qui fait de nous des choses la réification, c'est vraiment ça le bout de bout. Et même sur ça, il y a toujours les mêmes pièges, j'ai vu passer sur. De temps en temps, je vais sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer sur Internet des gens qui enquêtent et qui retrouvent des citations que l'euthanasie, ça sera, et on le ramène à des personnes à une idéologie, mais on ne parle jamais de la matérialité historique qui a généré cette idéologie. C'est-à-dire que même quand on creuse sur des sujets qu'on croit tout tenir, on ne tient rien si on n'est pas sur le chemin de la compréhension de ce qu'est la radicalité. Et c'est pas prétentieux que de dire ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas voir si on ne décide pas d'y rentrer.
On a, dans l'esprit de ce que tu dis là, on a retrouvé aussi, un certain temps, quelques décennies, je crois, près de Bonifacio en Corse, le corps d'une femme paléolithique qui avait une maladie qui l'empêchait, qui avait la mandibule bloquée ou quelque chose comme ça, en tout cas qui l'empêchait de mâcher. Elle était maintenue en vie par le groupe qui mâchait les aliments pour elle. Ça a été comme ça pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et la vie, c'était ça. Et alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, avant de revenir aussi sur l'euthanasie, mais sur ce que vous disiez sur le Covid, et notamment sur les critiques du Covid. Parce que on parle du thanatisme. Il y a le thanatisme pur, tel qu'il se présente dans le pouvoir de l'État. Mais il y a bien pire que ça. On l'a dit 100 fois. Le pire, ce n'est pas Macron. Macron, d'une certaine façon, il n'a pas de masque. C'est l'agent pur du thanatisme de la marchandise. Je dis Macron au hasard, ça pourrait être n'importe quel autre. Hein. Par contre, un critique fétichiste spectaculaire qui veut manifester une critique vivante tout en maintenant cette critique dans l'ordre du thanatisme. Ça, c'est terrible. Et tous les spécialistes qui ont eu une existence égotiste soudainement qui est sortie avec le Covid parce qu'ils avaient une connaissance scientifique qui les mettait en avant. Vous dites qu'ils n'ont pas bougé en 2 ans, mais ils ont bougé sans bouger, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire qui a continué et qui s'est aggravée. Aujourd'hui, ces gens-là, ils discutent avec des spécialistes fétichistes de la monnaie, avec des spécialistes de ceci et de cela, pour réorganiser aléatoirement, mettre en discussion leur savoir, qui est celui de la marchandise, du pur thanatisme qu'ils font semblant de critiquer, pour essayer de réorganiser une marchandise qui serait humaine. Et pour l'euthanasie n'est pas une rupture anthropologique, contrairement à ce que dit tout le monde depuis. Alors, tout le monde, tous ceux qui critiquent la loi qui vient de sortir. L'euthanasie, il y a deux regards. L'immense majorité des gens se pose uniquement, c'est ce que disait Francis, le regard individuel, anxieux, centré sur leur nombril. Ça, c'est le regard parfaitement adéquat à l'ordre du monde. Il n'y a plus que des atomes qui circulent, et donc l'atome circulant résonne comme atome sur tout sujet, et donc sur l'euthanasie. Donc l'euthanasie, c'est plus qu'une question de choix individuel, comme c'était le cas pour le mariage homosexuel, etc. Il n'y a plus que des choix individuels. Et de l'autre côté, beaucoup plus rare, il y a ceux qui essaient de se poser la question du point de vue social, global. Et c'est ceux-là qui parlent de rupture anthropologique. Mais vous l'avez exprimé d'une certaine façon, la rupture anthropologique n'a pas lieu. C'est la continuation, c'est un seuil
Il y a une
de
rupture
continuation.
anthropologique au néolithique.
Il y a une rupture anthropologique au néolithique, on peut dire qu'il y a une rupture anthropologique au début du capital, et il y aurait une rupture anthropologique au moment du communisme, justement. C'est l'autotransformation dont parle Marx. Et alors, je voudrais revenir là-dessus. L'autotransformation, Marx, il explique que, vous parliez d'implication réciproque, il explique l'implication réciproque de la transformation des circonstances et de l'activité des hommes. L'homme est le produit des circonstances, c'est donc les circonstances qui produisent l'homme. On peut apparaître dans le monde il y a 500 000 ans, Maurice, et puis on peut apparaître en 2025. D'entrée de jeu, on va être mis dans un rapport social qui fait qu'on sera radicalement différent. C'est donc les circonstances qui produisent l'homme réifié, mais c'est aussi les circonstances qui vont produire l'homme révolutionnaire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la critique de Lénine. Les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est précisément les réifiés du vaccin, de l'euthanasie dont on parle depuis tout à l'heure, les déchets qui vont, les déchets, un certain type de déchets, le déchet prolétaire, qui va réagir et devenir révolutionnaire précisément parce qu'il est déchet en tant que produit des circonstances de la crise du capital. Et les circonstances qui vont être transformées par la crise du capital vont produire un homme transformé. Et c'est cet homme transformé qui va produire les nouvelles circonstances. Et c'est circulaire. Et les nouvelles circonstances produisent l'homme nouveau. Donc, il n'y a pas des déchets, point. Il y a des déchets absolument nécessaires qui pensent comme ils doivent penser au regard du stade historique où on en est arrivé, mais qui, à un moment donné, vont à la fois subir et produire la rupture anthropologique qui n'est absolument pas dans la continuation du thanatisme qui avance et qui avance et qui avance.
Puisque l'être est un devenir par rapport à ce que tu dis, Michel, ça c'est quelque chose qui revient souvent, le fait que on parle des déchets, quoi, ça va bouger avec les gens, les gens comme ils sont, ça va bouger, ça paraît impossible, et on ne devient pas, on n'est pas un déchet et on ne devient pas un génie sur un claquement de doigts, mais les circonstances qui changent très vite, dans la transcroissance des luttes et dans le mouvement, c'est pas le politique qui va me faire des nœuds dans le cerveau, c'est pas le syndicaliste qui va me faire dans le... toute la destination change et tout ce qui me freinait avant fait que l'être, même celui qui est arrêté, il y a un mouvement, mais au travers de choses très simples, mais comme tu l'as dit, les circonstances qui changent, tout est redéfini. Et ça, on a du mal à s'imaginer là parce que, comme je le disais au début, on fait avec ce qu'on a sous les yeux et on ne voit pas le devenir. Alors, je ne dis pas que, en 24 heures, tout change, mais très vite, les nœuds qu'on avait dans le cerveau, et ce n'est pas péjoratif de dire ça, c'est le capital nous fait des nœuds, nous prennent, nous empêche de voir notre destination réelle, d'être générique. Et ça, qui se libère, et c'est une implication réciproque, c'est pas je veux me libérer, la masse du prolétariat veut pas. Il y a une implication réciproque avec le capital, avec l'effondrement du dollar, qui fait que il va y avoir des cercles qui vont se mettre en route, et c'est ça l'automouvement du prolétariat qui se dirige vers l'abolition du prolétariat.
C'est pour ça on fait passer là dans cette émission-là une citation de Bordiga. Je crois que la citation de Bordiga, elle est issue du texte qui doit s'appeler Le but des communistes. Et
Oui.
Bordiga dit l'homme, ça n'existe pas. Il y a l'homme d'un rapport social. Vous avez jamais vu un homme dans la rue. Vous avez jamais vu un homme dans l'histoire. Vous voyez l'homme du temps mérovingien, vous voyez l'homme du temps capétien, vous avez l'homme du temps médiéval, vous avez l'ouvrier anglais de Manchester en 1830, vous avez l'ouvrier italien de la grève de Milan en 22, vous avez le prolétaire de Barcelone en 37. L'homme, c'est toujours l'homme de cette qualité du génitif qui permet de comprendre l'espace de son histoire et l'histoire de son espace. Et l'homme, dans sa qualité générique, il arrive au terme de l'histoire pour produire le naturalisme achevé. Quand vous avez parlé de l'exemple des sept grottes espagnoles, de l'Albergensis, on a un naturalisme inachevé. L'homme du paléolithique est un homme du naturalisme inachevé, parce que c'est un naturalisme qui ne s'est pas universalisé à la conscience de l'universel et à l'universalité de la conscience. À partir du néolithique, je rentre dans un cheminement d'aliénation de l'humain, je rentre dans un cheminement d'aliénation de l'humain, et à partir de la domination formelle du capital, je rentre dans une domination de l'humain qui est telle qu'elle produit une qualité spécifique qui est celle de l'antinaturalisme. L'antinaturalisme et le capital dans sa domination réelle supérieure depuis 70, avec effectivement toute cette transmutation biologico-historique de l'homme déshistoricisé, c'est l'antinaturalisme achevé. Alors, c'est précisément, et ce que vous avez dit tous les deux est juste, le couillon de base qui creuse pas, il vous dit mais c'est pas possible, parce que par la même occasion il auto-justifie sa passivité. C'est pas possible que dans cet antinaturalisme achevé, où l'homme de l'usine globale est l'homme mort-vivant, abruti total, il se passe quelque chose. Ben si, parce qu'il n'est pas abruti total de l'usine globale de l'ahurissement généralisé, parce qu'il y aurait une transmutation générique génétique, mais parce qu'il y a une transmutation générique historique. Donc, la phrase de Bordiga dans le but des communistes, qui reprend bien évidemment tous les travaux du groupe Marx Engels, elle est très très importante, parce que qu'est-ce que nous dit Bordiga? Il nous parle de la crise terminale. Il nous dit, à un certain seuil historique de la production, l'histoire de cet espace, l'espace de cette histoire devient intolérable. Devient intolérable. Parce qu'au bout du naturalisme achevé, au bout de l'antinaturalisme achevé, puisque l'antinaturalisme est achevé, il peut pas produire du nouveau. C'est le moment où le taux de profit ne peut plus produire une nouvelle expansion. Il ne peut plus produire une réalité supérieure. Il ne peut pas réaliser une restructuration dernière. Et donc, à partir de là, l'homme, il est l'homme de l'impossible reproduction du capital. Il est donc l'homme de l'impossible reproduction de l'abrutissement généralisé de l'usine globale, de l'ahurissement généralisé. Et donc, l'homme est le rapport social des conditions historiques de sa propre reproduction. Donc, l'homme n'est pas un donné comme ça, inerte. Les gens sont abrutis. Ah oui, les gens sont abrutis, parce qu'il y a une dialectique historique d'abrutissement qui en a fait des morts-vivants. Mais au bout de la crise ultime, et c'est ça qui est décisif, la crise ultime est le moment où l'abrutissement ultime se renverse et il crée un nouveau rapport social, parce que l'homme du rapport social du capital encore possible devient l'homme du rapport social du capital qui devient lui-même impossible. Et donc, l'ahurissement aliénatoire de la réification devient lui-même impossible, et l'homme devient lui-même l'homme du rapport social, de l'auto-invalidation, du rapport de la réification qui n'est plus possible. Donc tout ça est très simple, pour autant que je sorte de mon nombril et d'une vision statique de sujet passif dans l'usine globale de l'abrutissement généralisé, le capital est la négation de l'homme générique, il est la négation de l'homme générique. Il est l'antinaturalisme achevé. Avortement, contraception, PMA, GPA, euthanasie. C'est le bout de l'antinaturalisme achevé. Mais une fois que l'antinaturalisme a achevé son achèvement, l'histoire tombe pas. L'histoire ne s'arrête pas. Elle produit justement l'antinaturalisme qui s'est achevé dans la terminaison de son achèvement, donc le travail du négatif, le concept révolutionnaire du resurgissement du naturalisme, mais cette fois-ci plus limité comme dans le communisme traditionnel primitif, mais en situation de lutte de classe universelle, dans l'abolition de l'historicide et dans le surgissement de la conscience radicale qui abolit justement l'atome narcissique absolu de la valeur d'échange, parce que l'atome absolu de la valeur d'échange, une fois que la valeur d'échange s'est auto-invalidée par le processus de caducité du capitalisme sénile et drogué, c'est ce qui permet à l'homme d'enfin surgir dans une respiration de vivant-vivant et donc d'abolir sa catégorie aliénatoire de mort-vivant.
Parler de l'homme d'un rapport social du génitif et justement les trois fonctions de la monnaie donc décrites par tous les économistes ben il y a quelque chose le paramètre essentiel qui fait césure radicale c'est qu'est-ce que la valeur donc tout le monde est proudhoniste donc c'est les trois fonctions de la monnaie que l'homme pourrait gérer le groupe Marx Engels et à la suite tous les groupes radicaux la monnaie avant d'être les trois fonctions sont résultat, c'est une relation sociale. Donc l'homme est c'est l'homme d'un rapport social, mais ce rapport social, on revient à la détermination, c'est l'homme d'un rapport social surdéterminé par la relation sociale qui surdétermine tout, la valeur d'échange. Et dit comme ça, évidemment, ça peut faire simpliste, mais il n'y a que la condition d'auto-invalidation de cette valeur d'échange au travers de l'unité dollar qui va arriver à son terme, il n'y a que ce moment-là où toutes les histoires de lutte de classe seront contenus dans la dernière lutte de classe qui renversera tout. Et je reviens sur le fait de dire que on rentre dans ce moment-là et on peut le voir à condition de vouloir se mettre sur le chemin de vouloir le voir. Voilà, c'est mon fil conducteur de la soirée, c'est d'insister là-dessus.
Et c'est très facile à voir et on le voit déjà. Parce que c'est à la fois historique, global, mais il y a une différenciation dans l'instant. Les circonstances transforment les humains. Comment se fait-il, est-ce que nos auditeurs se posent la question, comment se fait-il qu'à un moment donné de l'aliénation, aujourd'hui par exemple, des humains pensent ceci, d'autres pensent cela. Parce que l'aliénation, l'abrutissement, le déchet, il prend des formes d'une variabilité infinie. Et d'ailleurs, il y a des déchets anti-euthanasie.
C'est une profusion merveilleuse.
Oui. Donc, comment se fait-il que dans certaines classes, on pense ceci, dans certaines couches, on pense cela? C'est le rapport, c'est les circonstances, les circonstances dans lesquelles nous sommes plongés qui transforment à chaque instant ce que nous ressentons, ce que nous pensons, etc. Et d'ailleurs, quand il y a un transfuge de classe, ou aujourd'hui un fils de prolo qui devient une star de showbiz, il se met à penser en star du showbiz. Il ne pense pas en fils de prolo s'il avait épousé, comme ses parents, la trajectoire du prolo. Parce que c'est précisément les circonstances sociales dans lesquelles je suis plongé, l'homme n'est que rapport social, c'est ce rapport social qui transforme la totalité de ma conscience sous tous ses aspects idéologiques, émotionnels, et de désir ou d'angoisse et d'écrasement. Donc l'enjeu, c'est évidemment, pour tous ceux qui font mine de critique, de critiquer l'ordre thanatique du monde, l'enjeu c'est donc d'arrêter de critiquer l'homme en surface et de s'attaquer à la réalité de la critique des circonstances. Ça s'appelle le mode de production capitaliste. Et personne, personne ne s'intéresse au mode de production capitaliste qui donne la clé hiéroglyphique de ce qu'est chaque être humain, jusqu'à la plus petite ramification familiale.
Et parce qu'on en, il faut toujours revenir à la problématique posée par le groupe Marx Engels et qui est notre trajectoire historique et qui est notre invariance. Nous sommes les hommes de l'abolition révolutionnaire de la politique et de l'économie, les hommes qui mettent en mouvement la compréhension historique théorico-pratique de la destruction de l'État, de l'argent et du salariat. Et nous sommes entourés dans le monde des morts-vivants de l'usine globale, dans le grand cloaque de la passivité universelle, de la réalité objective de la politique et de l'économie, qui est l'horizon détesté parfois, mais l'horizon toujours accepté, c'est-à-dire que les chapelles, les cliques, les courants, les loges nous proposent une autre politique, une autre économie, mais parce que précisément leur socle de compréhension est radicalement contradictoire au mouvement réel. Il n'y a aucune compréhension de ce qu'est le capital, il n'y a aucune compréhension de ce qu'est la crise terminale du capital. Tous ces gens-là s'imaginent que le capital est éternel sous une forme ou sous une autre, et ils construisent des écuries gestionnaires. Ils construisent des écuries gestionnaires. Et parfois, lorsqu'ils s'appellent faussement révolutionnaires, c'est parce qu'il y a un objectif de coup d'État pour produire une nouvelle économie, une nouvelle politique. Mais la ligne frontière, la ligne de classe, la ligne de la radicalité, elle est là. Celui qui ne comprend pas ce qu'est le capital ne peut jamais aller dans une perception nécessaire de l'abolition de la politique et de l'économie. Pour être dans la compréhension révolutionnaire de la critique de l'économie politique, et c'est ce qui est le point décisif du groupe Marx-Engels dans la Première Internationale et dans la Ligue des communistes, les communistes ont sur le reste de tous les mouvements sociaux et historiques l'intelligence des fins dernières de la réalité objective. Ils savent que le capital a eu une naissance, que le capital a eu un développement, qu'il a en ce moment une crise terminale et que de cette crise terminale, il va périr. Il va périr. Et tout le travail que nous avons à faire pour les 30 années qui viennent, parce que l'époque est le temps long. L'époque est le temps long. Quand le groupe Guerre de classe en 85-90 dit que la clé de voûte explicative du siècle qui vient, c'est la crise de l'étalon dollar, nous, aujourd'hui, nous faisons un travail de méthode de longue durée dans le temps long. entre 71, la crise de la domination réelle supérieure qui entame son parcours, 2018, 2018, les taux d'intérêt négatifs, il y a eu 50 ans. Il y a eu 50 ans. Comprendre le développement du capital, c'est comprendre les cycles de la longue durée. Donc, la question qui est posée, à quel moment, et on va y revenir, à quel moment la crise ultime du dollar matérialisera toutes ces matérialités en nous disant que ça y est, nous sommes rentrés dans la crise terminale, dans sa phase réelle, dans sa phase supérieure, ce sera effectivement dans ce processus d'auto-invalidation du dollar. Mais le processus d'auto-invalidation du dollar, il va avoir lieu sur les 25 ans qui viennent. Ce n'est pas demain matin, après-demain matin, ce n'est pas 2027. Il faut saisir le temps long et on va expliquer pourquoi il aura lieu dans 25 ans. Parce que c'est la longue durée. Quand vous lisez Le Capital et que vous voyez l'évolution historique des grandes équivalences centrales fétichistes, vous voyez le temps long. Le capitalisme est né dans les cités médiévales commerciales italiennes parce qu'il y a là une amorce de reproduction élargie, élargie, qui est complètement antithétique à la réalité de la reproduction élargie simple du mode de production féodal. À partir de là, chaque réalité historique, chaque époque, se cristallise dans une monnaie. Parce que la monnaie, alors bien évidemment, je le redis, c'est l'unité de compte de l'aliénation, c'est la réserve de valeur de l'aliénation, c'est l'intermédiation des échanges de l'aliénation, mais ce n'est pas ça. C'est l'unité de compte de la réserve de valeur. C'est la réserve de valeur de l'intermédiation des échanges. Et c'est l'intermédiation des échanges de l'unité de compte. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement d'auto-présuppositions dialectiques, il y a un, il y a deux, il y a trois, mais il y a un de deux. Il y a 2 de 3, il y a 1 de 3, il y a 3 de 1, il y a 3 de 2. Ça crée une gigantesque formation sociale dynamique parce que la monnaie est la force productive de l'aliénation de l'espace dans le temps et du temps dans l'espace. Et il y a des longues durées historiques avec des validations et des invalidations. On en a parlé entre nous en réunion interne sur le temps long. Il y a eu le temps italien du florin. Puis le temps italien du florin, il a travaillé ses contradictions. Et puis le temps italien du florin qui a travaillé ses contradictions à mesure que l'économie méditerranée devenait une économie atlantique, il a produit le temps long du ducat. Puis le temps long du ducat, il a travaillé à son auto-invalidation. Puis il a fini par produire le temps long de la livre sterling. Mais le temps long de la livre sterling, il a fini par s'auto-invalider dans quelque chose qu'il l'a d'ailleurs absorbé, qui s'appelle le dollar. Mais il y a eu plusieurs dollars. Il y a eu un dollar qui dialoguait avec l'or, puis il y a eu un dialogue avec l'or qui s'est estompé, puis après il y a eu un dialogue avec un étalon dollar qui a coupé toute relation dans le dialogue à l'or, parce que tout a bougé, tout a bougé. Et tout ça résulte d'un processus immanent, impersonnel, qui s'appelle la dialectique de l'histoire. C'est pas les grands banquiers. On parlait tout à l'heure des clowneries sur Davos, sur Big Pharma. Le crétin, il cherche le groupe humain qui, dans son cénacle, a réfléchi et programmé les effets obligatoires du déterminisme de l'histoire. Mais il ne comprend rien au déterminisme de l'histoire. Donc il ne voit pas que tout est dans la réalité objective de la monnaie, du profit et de la baisse du taux de profit. J'ai fait exprès dans le voyage au bout de la fin du capital de systématiquement rappeler que chaque moment historique est un moment de PL sur C plus V. PL sur C plus V, c'est-à-dire la réalité organique qui positionne la baisse du taux de profit, c'est un processus impersonnel. Ce n'est pas un processus de décision politique, ce n'est pas un processus de décision bancaire, ce n'est pas un processus de décision pharmaceutique. Toutes ces décisions-là n'existent pas. Ce sont des concrétions qui viennent formaliser la nécessité objective de PL sur C plus V. Celui qui ne travaille pas la réalité objective de la formation sociale, de la composition organique et de la mise en mouvement de PL sur C plus V, Il peut devenir ce qu'il voudra, peut passer des heures à travailler les monnaies, peut passer des heures à travailler les vaccins, peut passer des heures à travailler Davos, il peut passer des heures à travailler la géopolitique, Mackinder, Mahan, Schoeffer, Carl Schmitt, il peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. S'il comprend pas, à la suite de l'idéologie allemande du capital et de l'anti-During, que chaque période historique est un moment dialectique d'EPL sur C plus V, que chaque époque en résulte, que chaque période en résulte, que chaque fait en résulte, il est aveugle. Il est aveugle. Et il y a un groupe qui s'appelle le groupe Marx Engels qui a tout prévu dans le positionnement qu'a suivi Bordiga, qu'a suivi Rosa Luxembourg, qu'a suivi Autoroul, qu'a suivi Pankok, qu'ont suivi toutes les minorités révolutionnaires jusqu'à Bilan, jusqu'à la vieille taupe, jusqu'au groupe des années 80, commune de Kronstadt, la jeune taupe, etc. Il y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. La méthode, le métaodos, le chemin. Comment puis-je connaître le chemin? En saisissant le sens dialectique du chemin. Comment puis-je saisir le sens dialectique du chemin? En comprenant la formation sociale de production du chemin. Tout se tient là et à un certain seuil, de la réalité historique, le développement dialectique se transforme. Les mérovingiens disparaissent, puis les carolingiens apparaissent. Puis à un certain seuil historique, les carolingiens disparaissent, les capétiens apparaissent. Puis à un certain seuil historique, les valois apparaissent. Puis à un certain seuil historique, les bourbons apparaissent. À un certain seuil historique, dans les villes italiennes, du florin conquérant est apparu le capitalisme. Puis en 1914, il y a eu la mise en mouvement de la domination réelle. À un certain seuil, à un certain seuil, à un certain seuil, à un certain seuil. Donc, comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale? L'époque de la révolution sociale s'ouvrira comme ce moment historique gigantesque qui fondera une époque nouvelle, parce que nous serons à un certain seuil de développement historique où, comme le florin, comme le ducat, comme la livre sterling, le dollar s'effondrera. Mais la différence de fond, nous dit Marx, c'est que après le florin, il y a eu le ducat. Après le ducat, il y a eu la livre sterling. Après l'effondrement du dollar, il y aura nécessairement des essais de recomposition, des essais de restructuration. Mais compte tenu de la réalité objective des trois monnaies, des trois fonctions de la monnaie telles qu'on les a positionnées en relation avec PL sur C plus V. Parce que dans chaque moment des trois fonctions de la monnaie, il y a PL sur C plus V. La monnaie, ça n'existe pas. C'est la monnaie d'un certain seuil historique. Donc le florin a eu un successeur, le ducat a eu un successeur, mais ceux qui voudront imposer une succession au dollar n'y parviendront pas. Ils n'y parviendront pas, non pas parce que le cénacle des banquiers n'aura pas la solution, parce que objectivement, l'homicide des morts, le monstre cannibale, le monstre vampire de la mort, le thanatos du travail cristallisé qui a produit un tel crédit chimérique fait que la réalité objective de la monnaie ne pourra pas reproduire sa reproduction. Si je lis avec intelligence les trois livres du Capital, je me pose la question aujourd'hui du niveau de production de la réalité objective de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain aujourd'hui, dans la réalité objective de ce qu'il produit mondialement, il produit grosso modo un quart de la production mondiale. Un quart. Un quart au moment où 50% des échanges mondiaux ont lieu en dollars. 50% des échanges mondiaux ont lieu en dollars. Et 70% des transactions financières, dans le cadre de l'hégémonie du capital fictif, ont lieu en dollars. Et dans le même temps, 60% des réserves de change dans le monde sont en dollars. Ça veut donc dire que j'ai une dysfonctionnalité historique générique dans les trois fonctions de la monnaie, si je les rapporte au mouvement réel de l'aliénation universelle qui se répand dans la géopolitique du marché mondial. On parle souvent de la fameuse lettre de 58 qui positionne un livre 5 sur le commerce international et un livre 6 sur le marché mondial, étant donné que c'est le marché mondial qui surdétermine le commerce international. On voit bien, à travers les grandes tendances chiffrées que j'ai données, qu'on a quelque chose qui ne va pas et qui ne peut plus aller. Et cette dysfonctionnalité, elle explique justement ce que l'on a expliqué quand on a parlé des notes sur Wagner. J'ai un correspondant qui me posait la question, il me dit, mais alors les notes sur Wagner, est-ce que c'est la domination réelle? Et alors donc je lui ai répondu on allait lui répondre ce soir. Les notes sur Wagner, c'est la réalité substantielle du capital dans toutes ses formes. Dès le florin italien jusqu'au dollar totalitaire, d'après les mesures de la Jamaïque. C'est-à-dire il y a un dialogue aliénatoire sur le marché mondial qui s'effectue entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Et faut se rappeler que la valeur d'usage est déjà une forme de la valeur d'échange parce que la valeur d'usage n'est pas l'usage. Chez les Aïder Benglis, en Espagne, il n'y a pas de valeur d'usage, il y a des usages. La valeur d'usage, elle naît au néolithique. Et elle naît au moment où naît la valeur d'échange. C'est donc la valeur d'usage est quelque part une métastase de la valeur d'échange dissociée, puisque la valeur d'échange est la forme qui positionne le travail abstrait dans sa forme supérieure, alors que la valeur d'usage est quelque part le dialogue que la valeur d'échange avec elle-même en le rapportant à l'objet de l'usage, mais qui lui-même, même s'il est le produit d'un travail concret aliénatoire, est surdéterminé par la valeur d'échange. Donc les notes sur Wagner nous disent, il y a eu de tout temps, un dialogue aliénatoire entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, mais il n'y aurait pas de valeur d'échange si les usages n'avaient pas été transmutés en valeur d'usage, parce que dans la valeur d'échange qui produit les échanges, il y a forcément des valeurs d'usage. Et la réalité objective, c'est que les notes sur Wagner concernent la totalité du développement du capital, de sa naissance à sa mort. Mais si on a une lecture intelligente et méthodologique du capital, le capital, dans sa globalité méthodologique, on rencontre le sixième chapitre qui est un moment clé et qui nous dit tout ce qui se passe en domination formelle est transmuté en domination réelle et tout ce qui est transmuté en domination réelle prend une autre forme et très souvent, la fonction se modifie dans l'espace-temps. Et on a d'ailleurs expliqué que, à partir de 1914, le capital industriel est supplanté par le capital financier parce que les anticipations de plus-value, au lieu de se réaliser dans un marché immédiat, se réalisent dans un marché étendu, dans un crédit de plus en plus ouvert, de plus en plus large, de plus opératoire, qui crée le capital fictif des anticipations de plus-value généralisées. Donc, les notes sur Wagner, en domination réelle, elles prennent une forme différente dans la mesure où elles permettent de comprendre l'agitation contradictoire et de plus en plus explosive de la scission. Marx, dans les Grundrisse, nous dit le problème essentiel du capital, c'est la scission entre l'achat et la vente, c'est la scission entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, du point de vue de la réalité objective, de la réification universelle. Donc les notes sur Wagner, à un moment donné, dans la domination réelle supérieure, elles nous permettent de comprendre que le crédit chimérique sans fin va dans le mur, parce qu'à un moment donné, le crédit chimérique sans fin, il va s'auto-invalider. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, la production mondiale américaine représente un quart de la réalité mondiale, alors même que 70% des transactions financières ont lieu en dollars, vous voyez bien qu'il y a un hiatus entre la réalité du dollar qui surgit dans l'absorption de la livre sterling dans les années 42-44, qui va vers Bretton Woods, puis après ce qui positionne les accords de la Jamaïque. Cette distorsion, elle est complètement délirante. Alors cette distorsion, elle s'est produite dans l'histoire au fur et à mesure que la domination réelle supérieure se mettait en mouvement. La domination réelle supérieure qui se mettait en mouvement, elle fait qu'aujourd'hui, indépendamment des réserves américaines, il y a 500 milliards de dollars de réserves rien qu'en Arabie Saoudite. Rien qu'en Arabie Saoudite. Et on reparlera de la Chine tout à l'heure. En Chine, on ne sait pas si c'est 3, on ne sait pas si c'est 4, on ne sait pas si c'est 5, ou si c'est 6 000 milliards de dollars de réserves de change en dollars. Donc, le florin, à un moment donné, il a déliré. Le ducat, à un moment donné, il a déliré. La livre sterling, elle a déliré. Mais chaque délire qui a vu l'auto-invalidation et la chute a vu la réception par une monnaie supérieure. La monnaie supérieure qui va venir, elle est quasi impossible, et c'est pour ça qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Les BRICS ne peuvent absolument pas être une recomposition d'anti-dollarisation. Ça peut être tout au plus une recomposition de réorganisation de la dollarisation. Puisque si la Chine a 4 ou 5 000 milliards de dollars de réserves de change, elle ne peut pas mettre en marche une invalidation, même partielle, du dollar, qui serait une invalidation partielle, voire plus que partielle, de sa propre structuration industrielle, commerciale et monétaire. On est donc dans un cercle vicieux. Le crédit chimérique à un niveau supérieur a créé un cercle vicieux qui est celui de la crise ultime du dollar, vers laquelle on va. Et on en reparlera d'émission en émission, mais il faut bien comprendre qu'on est rentré dans la crise ultime du dollar. Et c'est précisément parce qu'on est rentré dans la crise ultime du dollar qu'on comprend le projet de la nouvelle administration américaine à l'aune des notes sur Wagner, mais des notes sur Wagner appliquées à la domination réelle. Vu l'ampleur du crédit chimérique, le dollar va à sa mort. Le dollar va à sa mort parce qu'à un moment donné, le dollar, qui est encore la force du dollar, va totalement se transmuter en force de l'anti-dollar. Et donc, le retour à une économie industrielle et donc à la valeur d'usage était une nécessité stratégique pour le capital américain à un moment donné, parce que le capital américain, même s'il exerce une impérialité mondiale à travers le crédit chimérique, et l'économie factice du dollar exubérant, il a atteint une limite. Il a atteint une limite. Et donc, derrière cette limite, il y a la crise de l'équivalence centrale fétichiste. Quelle est la grande différence entre la crise du florin, la crise du ducat, la crise de la livre sterling? C'est qu'il y a eu un après. Avec la crise du dollar, il n'y aura pas d'après, parce que le dollar est à la fois la monnaie de l'impérialisme américain, mais il est la monnaie, dans les trois dialectiques constitutives, les trois fonctions de la domination réelle supérieure. Comme le florin a été la monnaie de l'émergence commerciale italienne, et comme le ducat a été l'émergence de la grande impérialité espagnole, qui maîtrisait le monde. Puis à un moment donné, l'impérialité espagnole, elle est devenue l'impérialité anglaise. Il ne peut pas y avoir de domination mondiale sans domination mondiale monétaire, en fonction du fait que la monnaie est l'expression d'une composition organique et d'un taux de profit réel. Au bout de la crise du dollar, on n'entre pas dans une nouvelle étape de restructuration et d'expansion. Après l'expansion italienne, l'expansion espagnole, après l'expansion anglaise, après l'expansion espagnole, l'expansion anglaise, au bout de la crise du dollar, je suis dans l'anti-expansion, dans l'impossibilité radicale de toute expansion. Donc c'est ça qu'il faut dialectiser et que nous positionnons dans les années 85-90 quand nous disons, nous allons vers la crise de l'étalon dollar, mais la crise de l'étalon dollar ne sera pas simplement la crise de l'étalon dollar, ce sera la crise de l'étalon dollar du dernier monde de la marchandise totalitaire mondiale. Et on reviendra sur les événements tels qu'ils ont lieu aujourd'hui à Gaza et en Ukraine à partir de cette réalité objective.
C'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, mais il faut comprendre ce qu'on disait au début sur la notion de système. De même façon que le pouvoir semble s'extérieur, ce qu'ils appellent eux le système, semble un truc extérieur qui s'exerce, le dollar en tant que monnaie mondiale, ce serait le dollar d'une partie du monde qui serait les États-Unis, qui s'exercerait sous les autres. Sous-entendu, s'il est en crise, on pourrait le remplacer par quelque chose d'autre. Mais il est là, il est d'abord et avant tout, il est bien sûr la monnaie des États-Unis, mais il est d'abord et avant tout la monnaie du marché mondial qui fait qu'il est la monnaie de tout le monde. Et donc, sa crise pose problème à tout le monde, problème insoluble à tout le monde, et à commencer par la Chine. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure. Mais c'est la clé, c'est vraiment cette notion de non pas de critiquer le système, mais de critiquer le système comme totalité, comme totalité.
Et l'équivalent central fétichiste mondial fait qu'il y a une interpénétration de tous les capitaux, et quand on parle de la puissance du dollar, et il y a tout le temps cette question qui revient de la Chine et des BRICS. Et là, la Chine, donc, on l'a déjà dit, je le redis, a été créée par les États-Unis, donc avec le voyage Nixon-Kissinger, et le créateur, le dollar qui a créé la Chine, fait que la Chine a, comme vous l'avez dit, des réserves gigantesques. Et ces réserves, de l'extérieur, si on ne connaît pas, on peut se dire, ben, ça doit, c'est une force, alors que une réserve de change gigantesque qui paralyse, qui fait qu'il y a une paralysie pour l'intervention de la Chine. Mais la paralysie, elle est mondiale. C'est pas la Chine toute seule. Il y a la Chine qui est prisonnière de ça, l'Arabie Saoudite, le dollar, monnaie mondiale. Quoi qu'il se passe, l'issue, c'est le mur, c'est l'auto-invalidation. Et on voit bien que dans ces contradictions, valeur d'usage, valeur d'échange, ce que veut faire, ce qui est contraint de faire les États-Unis, regard des derniers changements de présidence, tout ça patine. Contrairement à des déclarations, à beaucoup de choses, ça patine parce qu'on est dans des contradictions. Et les contradictions, c'est pas deux opposés qui ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est une implication réciproque de deux choses qui se neutralisent l'un l'autre. Et ce qui est difficile à saisir, effectivement, c'est que si on n'a pas compris ce que c'était qu'une monnaie, on peut toujours penser qu'on peut en refaire une. Si on croit qu'on peut créer la monnaie à partir de rien, que la monnaie, c'est simplement ces trois fonctions, que c'est quelque chose qu'on décide comme ça. Si on ne sait pas que c'est une relation sociale aliénatoire qui échappe à l'homme et qui crée la vie des hommes, on croit qu'on peut, on revient à du proudhonisme, on croit qu'on peut équilibrer tous les déséquilibres. Et tout ça, ben, la réalité va faire que on va être obligé, on va être contraint, comme je crois qu'il le disait dans la Sainte Famille, Marx Engels, le prolétariat va être contraint d'agir, parce que de désillusion en désillusion, ben, sa conscience va faire qu'il va comprendre, et un acte, c'est ce qui va créer le renversement à venir.
Et alors, si vous voulez, vous avez dans le cadre des économies régionales, et faut pas se tromper, là encore, il y a la partie, il y a le tout, faut dialectiser la science de la logique, l'anti-Turing, les Grundrisse, vous avez des accords de partenariat où vous avez des échanges entre la Chine, la Russie et l'Inde, ou même avec l'Iran, avec d'autres monnaies, ou même carrément des options de troc. Mais ça ne concerne que les économies régionales. Dans une entité régionale, ça ne peut pas accéder à une autre réalité que régionale. Ça ne remet pas en cause la mondialité des réserves de change dollar. Au contraire, ça vient montrer l'incapacité aujourd'hui de créer autre chose. C'est l'inverse. On ne peut pas, le dollar est en train de s'effondrer, mais le dollar est en train de s'effondrer en obérant toute autre réalité que le dollar. C'est ça la crise ultime. La crise ultime, l'impossible restructuration. L'impossible restructuration, c'est pas que y a pas des équipes qui voudraient restructurer. Il n'y a pas des équipes qui ont des objectifs. Ça signifie qu'au bout de ce cycle historique, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, temps contemporain, domination formelle, domination réelle, la domination réelle du capital qui est devenue la réalité totale du monde, la réalité totale du monde ne peut pas dépasser le cercle de la réalité totale pour aller voir ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Donc la réalité totale est en train de s'auto-invalider en tant que tel. Et ce qui est très intéressant, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est l'incapacité absolue aujourd'hui de ceux qui ne sont pas dans la dialectique radicale de comprendre ce qui se passe entre Trump et Poutine. C'est pas Trump et Poutine qui décident de ce qui va se passer. C'est les notes sur Wagner appliquées à la compréhension radicale de la domination réelle. Les notes sur Wagner appliquées à la domination réelle nous ont fait comprendre pourquoi, à un moment donné dans l'histoire, toute la réalité du capital fictif américain dans l'économie du crédit chimérique représentée par Bush, par Obama, par Kamala Harris, mettait en mouvement le grand chaos de l'indistinction supérieure. Le bouquin qui est sorti récemment sur Biden est complètement inintéressant, mais il est au moins intéressant sur un point. Il nous montre que l'État fonctionne tout seul. Mais il ne fonctionne pas tout seul parce que les gens de l'État profond le font fonctionner tout seul. Il fonctionne parce que la loi de la valorisation, la loi de la dévalorisation, la contradiction dialectique, PL sur C plus V, fait fonctionner l'État. On a dit à plusieurs reprises, il y a derrière l'État visible l'État profond, mais l'État profond ne dirige rien. L'État profond, il est en situation obligatoire de mettre en mouvement le diktat de l'État invisible. Et l'État invisible, c'est la valeur d'échange à un seuil de son développement dialectique et donc à un seuil du développement dialectique de la baisse du taux de profit. Donc, comprendre aujourd'hui ce qui se passe, c'est pas... Oh bah, Trump, il est bizarre. Un coup, il dit ça. Un coup, il dit ça. Trump n'a aucun pouvoir. Poutine n'a aucun pouvoir. Zelensky n'a aucun pouvoir. Le crétin empirique de surface qui croit que les hommes font l'histoire dans leur organisation étatique n'a pas lu l'idéologie allemande qui lui explique que l'idéologie de l'homme politique qui décide ne fait que sanctionner le diktat d'obligation de la valeur d'échange en mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On l'a dit, la valeur d'échange qui fonde l'État invisible, qui structure lui-même l'État profond, c'est une contradiction dialectique qui s'explicite à partir des notes sur Wagner, valeur d'usage, valeur d'échange. Il y a donc dans l'État profond deux grandes forces contradictoires qui peuvent d'ailleurs se décomposer en métastases diverses et variées. Mais il y a deux forces contradictoires qui travaillent dans l'État profond. Il y a celle qui correspond à l'échappée dans le crédit chimérique, et il y a celle qui correspond à l'espérance d'une réindustrialisation qui repartirait sur la valeur d'usage. Mais compte tenu du niveau de la crise ultime du dollar et de la crise du taux de profit général, essayer de continuer le crédit chimérique, on va dans le mur. Essayer de retrouver la valeur d'usage, on va dans le mur. Parce que les notes sur Wagner en domination réelle supérieure nous montrent que d'un côté comme de l'autre, le procès d'auto-invalidation du capital irrigue la relation dialectique valeur d'usage, valeur d'échange, valeur d'échange, valeur d'usage. Donc, M. Trump y fait ce que la contradiction valeur d'usage, valeur d'échange, positionné dans l'état invisible qui structure l'état profond, lui commande de faire. Lui commande de faire. L'homme d'État ne dirige rien. Pas plus que Poutine. Poutine fait à un moment donné ce que la nécessité objective de la valeur d'échange d'une Russie archaïque et vétuste qui est sortie de 50 années de capitalisme soviétique doit faire pour retrouver une assise de solidité régionale et surtout pas une mondialité stratégique mondiale. Il n'y a pas de mondialité stratégique mondiale. Il y a simplement une réalité de puissance régionale qui est en train de se refaire à la suite de la décomposition du glacis soviétique. Et donc, la guerre en Ukraine, la modernisation de l'Orient, il y a tout un plan économique de développement de l'Orient en Russie, il y a toute une modernité technologique qui s'essaye à se mettre en mouvement. Tout ça, ça se met en mouvement indépendamment des hommes politiques. Le mois prochain, nous publierons la fameuse lettre de Marx à Kayermer, je crois. À un moment donné, elle est reprise d'ailleurs par Engels dans une autre correspondance où il parle de Napoléon. Et il dit, mais s'il n'y avait pas eu Napoléon, il y aurait eu un autre type qui aurait fait le même boulot que Napoléon. C'est l'histoire qui sélectionne les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sélectionnent l'histoire. Donc, à un moment donné dans l'histoire, c'est la ruse de la raison, c'est la fameuse obligation nécessaire du destin, la substance, bah, un homme fait ce que la réalité objective de la dialectique des forces productives lui commande de faire. Et donc aujourd'hui, si ça patine en Ukraine et si ça patine à Gaza, c'est parce que les contradictions objectives telles qu'elles sont posées par les notes sur Wagner, telles qu'on les fait rentrer dans le sixième chapitre, rendent impossible une stabilité même momentanée du dialogue, valeur d'usage, valeur d'échange. L'armement américain continue à arriver en Ukraine et l'armement américain continuait d'arriver pour pilonner Gaza. Même s'il y a des tensions énormes entre Netanyahou et Trump, même s'il y a des tensions entre Trump et Zelensky, les tensions entre hommes politiques, c'est ce que le crétin regarde. Parce qu'il croit que c'est les tensions entre les hommes politiques qui font que l'histoire va dans un sens ou dans un autre. Non, les tensions politiques entre les hommes politiques ne font qu'illustrer les contradictions dialectiques, valeurs d'usage, valeurs d'échange, dans le champ spatial où ces hommes politiques interviennent, tel que c'est déterminé à un certain seuil du développement dialectique par la contradiction mondiale qui irrigue la valeur d'usage et la valeur d'échange au niveau mondial, parce que c'est elle qui vient prédéterminer la manière dont est positionnée contradictoirement la valeur d'usage et la valeur d'échange dans un espace donné qui est surdéterminé par la totalité, puisqu'il n'est qu'une partie. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat contradictoire de cette position valeur d'usage, valeur d'échange, parce que je sois dans la valeur d'échange ou que je sois dans la valeur d'usage en tant qu'émanation de l'état profond, en tant qu'émanation de l'état invisible, il n'y a pas de solution. Le capital, dans sa crise terminale supérieure, n'a pas de solution. Alors on a bien un état transatlantique double, duel, un duo contradictoire. On a la commission bruxelliste qui représente l'état profond du capital chimérique tel qu'il était effectivement positionné par l'ancienne administration. Puis on a la nouvelle administration qui est bien en conflit avec la commission de Bruxelles, parce qu'il y a dans la nouvelle administration américaine une volonté de retourner à la valeur d'usage. Mais les deux temps, les deux moments de l'état profond transatlantique qui s'affrontent sont hors d'état de trouver une solution opératoire durable. Donc, puisqu'on est hors d'état de trouver une solution durable, on va patauger dans la contradiction et les temps qui viennent vont être celles du pataugeage contradictoire qui correspond à la réalité de l'insoluble dialogue de ce qui résulte des notes sur Wagner, sur valeur d'usage, valeur d'échange. Il y a trop de capital chimérique, il y a trop de capital chimérique, mais je ne peux pas arrêter d'en construire. Il y a pas assez de capital industriel, mais je ne peux plus en construire, puisque l'industrie est mangée par le capital fictif et que le capital fictif doit absolument retrouver du capital industriel. Mais ce n'est pas possible. Le capital industriel est impossible compte tenu du capital chimérique, et le capital chimérique est devenu impossible compte tenu du niveau du capital industriel. Je suis rentré dans l'insoluble. Qu'est-ce qui fait que je suis passé du florin au ducat et du ducat à la livre sterling, c'est que la marche de l'histoire produisait des seuils dialectiques qui produisaient insolubles. Il y avait insoluble, c'est-à-dire il y avait une solution. Il y avait une solution dans le cadre du système. Je suis dans l'insoluble, il n'y a plus de solution dans le cadre du système. Alors, le système, on l'a dit, c'est le temps long d'une époque. Ça ne tombe pas en 5 minutes, ça ne tombe pas en 5 ans, ça ne tombe pas en 10 ans. C'est une époque. C'est une époque. Et cette époque, qui est celle du grand mouvement remplaciste du capital pour casser l'esprit communard européen, ça va continuer l'émigration. Cet esprit, ça va continuer le capital chimérique. Mais le capital chimérique qui conduit à l'autonégation. La France va se retrouver très prochainement sous contrôle du FMI et peut-être de la Troïka. Le déficit budgétaire, aujourd'hui, qui est la marque du capital chimérique, est la seule solution. C'est la seule solution pour essayer de vivre, mais c'est la seule solution qui va nous tuer. Donc il faut comprendre cette dialectique-là. Puis de l'autre côté, la seule solution, c'est de retrouver de la valeur d'usage, mais je ne peux pas retrouver de la valeur d'usage. Donc il y a une lutte permanente au sein de l'État profond, mais qui n'est pas due à deux équipes qui s'opposent. Bien évidemment que... Il y a deux états profonds parmi les milliers d'employés du FBI. Il y a deux états profonds parmi les milliers d'employés de la CIA. Il y a deux états profonds au sein du Pentagone. Mais c'est pas, ah bon, alors toi, t'es quoi, moi? Moi, je suis telle équipe. Moi, je suis telle équipe. Il y a une immanence aliénatoire qui fait que tout se scinde en deux. Tout se scinde en deux entre les forces de la valeur d'usage, les forces de la valeur d'échange, la nouvelle administration, l'ancienne administration. Et c'est une lutte à mort entre deux mafias capitalistes, entre deux gangs capitalistes, entre toutes les classes capitalistes de la Terre, parce qu'il en est de cette réalité-là, de la survie de tous les gangs capitalistes. Au bout de tout ça, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne comprennent pas, ils comprennent quelque part. Quand le gouvernement français jongle avec les ZFE, c'est parce qu'il y a la panique du retour des gilets jaunes. Alors les ZFE, il faut absolument qu'on les mette en mouvement, puisque ça participe de la mort de l'industrie automobile française. Et d'ailleurs, on a parlé de l'euthanasie, on a parlé du grand remplacement, on a parlé du crédit chimérique, mais il y a la folie, il y a la folie bruxelloise. De l'arrêt de toutes les forces productives, la décroissance accélérée. Donc, on est dans une folie supérieure, parce que Thanatos, dans une dimension supérieure, c'est l'hubris totalitaire de la valeur d'échange. Plus rien, l'expression, le chaos de l'indistinction de la valeur d'échange n'est pas dû au hasard. C'est la forme supérieure de la crise mortelle du capital. Rappelez-vous toujours ce que disait Rosa Luxembourg, la forme politique qui correspond le mieux à l'impérialisme de la mort du capital, c'est l'anarchie. L'État veut l'anarchie. Anarchie monétaire, anarchie industrielle, anarchie de la délinquance, le boxon partout, anarchie du marché de la drogue, anarchie de la mafia. Le capital va mourir dans l'anarchie. Mais une anarchie qu'il a lui-même constituée dans le Thanatos de l'hubris de la valeur d'échange impossible. On reviendra en particulier sur Gaza et l'Ukraine après pour préciser.
Là
Allez-y,
aussi,
Michel.
celui qui veut voir, maintenant, il peut voir. Parce que tous ceux qui déliraient sur le... Il y avait l'exemple type des années 60 gaullistes. Donc, les gens qui n'ont pas de conscience de la temporalité et surtout de la dialectique de la temporalité, ben, voulaient revenir à ce moment productif et plus humain, etc. Et là, ils voient partout l'impossibilité totale de ce qu'on appelle nous, mais de la valeur d'usage, de s'émanciper de la valeur d'échange. Donc là, c'est sous les yeux de tout le monde, c'est pas possible. Et ça renvoie à ce que la citation qu'on a mise en début d'émission de l'idéologie allemande, où Marx dit notre époque nous enjoint de nous émanciper, etc. Là, ils ont là, c'est pareil, celui qui veut voir, il a la preuve. En image, et puis irrésolu sur la longue durée, c'est-à-dire on ne s'en sort pas, que tout retour temporel est impossible. Donc on ne peut pas revenir à un monde sans euthanasie, on ne peut pas revenir à un monde productif où le crédit rentrerait dans des clous gérables, on ne peut jamais revenir en arrière. Par contre, je crois qu'on n'a pas parlé de la Roumanie, de ce qui s'est passé en Roumanie.
Justement.
En Roumanie, c'est hyper intéressant parce que c'est là aussi regardé comme une manip du camp réputé manipulateur. Donc l'État profond transatlantique dans sa version où elle perdure en Europe. Mais la réalité dans la contradiction valeur d'usage, valeur d'échange, c'est que le camp de la valeur d'usage, entre guillemets, Poutine-Trump qui n'aspire qu'à se rejoindre, n'y arrive pas en Ukraine, mais n'arrive pas à faire en sorte qu'une élection sera respectée en Roumanie. Vous voulez préciser,
Bah,
développer là-dessus?
on l'a dit à plusieurs reprises, la dialectisation, c'est surtout sortir de la géopolitique débile, Mackinder, Mahan, Schoeffer, Carl Schmitt, qui sont simplement des géopolitiques de l'espace. Marx et Engels nous disent la géopolitique des espaces, qu'ils soient maritimes ou terrestres, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une géopolitique des espaces de la mer et de la terre, de la valeur d'échange, à un certain seuil de leur développement dialectique. Bon, il y a eu plein de révolutions orange, de l'ordre américain antérieur, qui représentent précisément la puissance impériale du dollar, du crédit chimérique. Il n'y a jamais eu la contrepartie du côté russe, parce que la Russie n'a pas accès à la capacité impériale mondiale de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a la volonté d'aller vers un contre-rapallo sur les grandes ressources minérales russes inexploitées, mais qui n'arrivent pas à se faire. Qui n'arrivent pas à se faire, non pas, parce que les équipes sont pas compétentes, parce que les équipes sont capricieuses, parce que les équipes n'ont pas bien compris, mais parce que les équipes de chaque État visible expriment les équipes de l'État profond qui expriment la dialectique contradictoire des notes sur Wagner. Or, la Roumanie, c'est passionnant. La Roumanie, on a des candidats qui représentent de manière diversifiée et parfois contradictoire la possibilité d'un accord Trump-Poutine. Et la Commission de Bruxelles est capable de les dézinguer, sans que, en amont ni en aval, la Maison-Blanche et le Kremlin ne puissent neutraliser les manœuvres de la Commission de Bruxelles. Ça veut donc dire que la dominance de la valeur d'échange de l'ancienne administration américaine, qui continue à produire ses métastases dans l'État transatlantique européen et d'abord en premier lieu à la Commission européenne, a été sur l'élection roumaine en situation de supériorité stratégique sur une relation éventuelle Poutine-Trump. Mais ça doit être dialectisé du point de vue de l'anti-During et de la dialectique des profondeurs. Si je ne le fais pas du point de vue de la dialectique des profondeurs, alors je vais faire quoi? Je vais faire de la psychologie étatique, ou de la parapsychologie étatique, ou de la numérologie étatique, ou de l'astrologie étatique. Je suis un couillon. Ça doit s'analyser du point de vue du seuil dialectique des forces productives. Et c'est pareil pour Gaza. À Gaza, il y a une contradiction. Netanyahou, Trump, mais pas Netanyahou, Trump, les deux messieurs qui sont en conflit. Les deux messieurs, avec leurs équipes, ils représentent un stade de CL, de PL sur C plus V à un certain seuil du développement dialectique. Donc il y a une négociation avec les Houthis qui a plus ou moins réussi momentanément. Il y a des approches avec l'Iran qui approchent momentanément, mais sur Gaza, je continue le grand massacre. Et puis ce soir, finalement, je vais peut-être arrêter le grand massacre pour une trêve de 30 ou de 60 jours. C'est-à-dire, tout est en zigzag. Ce que nous a appris Hegel et ce que nous a appris l'anti-During, c'est que la stratégie sur le terrain de l'affrontement militaire de la valeur d'échange, c'est une percée. Et sur le terrain géopolitique de la domination impériale, c'est une percée. C'est pas un zigzag. C'est pas un coup j'avance, un coup je recule, un coup j'avance, un coup je recule. Depuis le 20 janvier, Gaza continue de subir un massacre de masse. Et en Ukraine, c'est la boucherie militaire de masse. Rien n'a été substantiellement arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'a été substantiellement arrêté. C'est pas que les équipes n'ont pas pu arrêter. c'est que la contradiction dialectique de la baisse du taux de profit qui positionne les notes sur Wagner telles qu'on les analyse dans le problème du sixième chapitre et de la domination réelle produit une instabilité gigantesque dans le chaos de l'indistinction qui rend impossible pour le retour à la valeur d'usage de neutraliser durablement pour le moment l'échappée de la valeur d'échange. Alors, un coup, je t'engueule à la Maison Blanche, un coup, j'engueule l'autre, mais on s'en fout, ça c'est de l'écume des choses. Le truc essentiel, c'est que les systèmes américains de surveillance et l'approvisionnement militaire, syndrome Saïgon, sans lequel l'Ukraine ne tient pas, continuent de fonctionner. On l'a dit, au moment où il se passera à Kiev ce qui s'est passé à Saïgon, c'est-à-dire au moment où la couverture satellitaire, la couverture du renseignement et les approvisionnements militaires ne se feront plus, Kiev tombera. Et au moment même où les ravitaillements en munitions américains cesseront d'arriver sur les bases israéliennes, il ne peut plus y avoir de bombardement sur Gaza, il n'y a pas de production. La société israélienne est en complète décomposition. Je vous avais dit et j'avais dit aux auditeurs, allez lire la presse israélienne. Il y a des milliers de réservistes, il y a des milliers de réservistes qui ne rentrent pas sur leur base. Ils ne rentrent pas sur leur base. Il y a eu des dizaines et des dizaines de suicides dans l'armée israélienne. Et on a appelé au service militaire, ce qui ne se faisait jamais. Et ça a été un grand débat dans la société israélienne, les membres des écoles talmudiques, qui sont des milliers, des milliers, des milliers, je crois qu'il y a à peine 1 000 conscrits qui se sont présentés. Donc on est au bout de tout un capharnaüm mondial, un gigantesque capharnaüm mondial, effondrement de l'économie française, effondrement de l'économie européenne, effondrement de l'euro, effondrement du dollar, incapacité de sortir de la crise ukrainienne, incapacité de sortir de la crise moyenne-orientale, tout patauge, tout zigzag, parce que tout est adéquat au seuil historique de la baisse du taux de profit qui rend impossible toute gestion politique organisée de l'espace et du temps. Quand on dit le chaos de l'indistinction, ça signifie qu'à un moment donné, seul le chaos est organisateur. Et le chaos n'est pas organisateur parce qu'il y a des méchants manipulateurs qui ont décidé, dans le cadre d'une ingénierie sociale particulièrement diabolique, de tout gérer par le chaos. C'est la valeur d'échange dans sa crise ultime qui rend obligatoire le chaos généralisé de l'indistinction thanatique de la valeur d'échange partout omniprésente. Donc c'est tout ça qu'il faut peser. Et on en arrive. Alors, je voulais parler, j'ai eu des questions sur la société israélienne. Je vous laisse reprendre et puis je reprendrai après sur les spécificités de la société israélienne.
Ben allez-y, si vous êtes sur Israël, finissez sur Israël et puis on passera
Alors,
après aux autres.
sur Israël, bon, là encore le déterminisme, là encore le déterminisme. La vieille taupe avait énormément articulé dialectiquement la critique du sionisme, non pas pour une solution à deux États ou à trois États, mais évidemment pour la solution à zéro État. Et Pierre Guillaume avait fait tout un travail sur le sionisme en montrant qu'il y avait effectivement un sionisme classique et puis un sionisme révisionniste. Le sionisme révisionniste de Jabotinsky, qui aujourd'hui, dans toute la recomposition de la société israélienne, se voit en situation de dialogue avec l'eschatologie messianique du Troisième Temple. Là encore, faut dialectiser. L'hystérie messianique et l'hystérie messianique de la crise historique de la valeur d'échange. Avant que le capital n'ait positionné la crise de la domination réelle supérieure, la société israélienne est massivement, entre guillemets, laïque, travailliste. Elle a des plans d'élimination des Palestiniens parce que Ben Gourion et Golda Meir n'ont pas été des tendres, mais il n'y a pas cette folie messianique contemporaine. Mais la folie messianique, elle n'est pas au début. même si elle est sous-jacente dans toute une série de cénacles, puisque la folie de la valeur d'échange a créé un suprématisme, a créé effectivement un champ de codification du cadastre éliminateur de l'autre. Mais la grande hubris eschatologique contemporaine, elle correspond à la mort de la société israélienne. Chasser tous les Palestiniens, le grand Israël, du Nil à l'Euphrate, cette folie-là qui même en Israël maintenant est contestée parce que la société israélienne est clivée, ça explose de partout, elle a lieu aujourd'hui dans la crise supérieure de la domination réelle. La crise supérieure de la domination réelle est la crise de la valeur d'échange talmudique. La société israélienne est en crise totale, on l'a dit, elle ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous lisez la presse israélienne, vous voyez qu'il y a des pans entiers de la société organisée qui est contrairement à rebours de ce qui se passe à Gaza, parce que vous avez le chef d'état-major Yair Golan qui dit on est en train de se tuer nous-mêmes dans l'imaginaire politique mondial. On va devenir un état paria. Le facteur de sympathie pro-israélien dans la société américaine et dans les universités américaines dans les années 50 et 60, il est gigantesque, même s'il y a déjà des positionnements pro-palestiniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Golan dit on est en train de se mettre en paria du monde. Et c'est la société israélienne elle-même qui est en danger. Mais ça, on l'a dit, la société israélienne n'est pas vivable historiquement. Aujourd'hui, dans le cadre de, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors il y a la high-tech qui fonctionne, et puis il y a l'armée avec les ravitaillements américains. Mais c'est une société qui est en complète décomposition et en clivage interne complet. C'est la marche du capital. La valeur d'échange mondiale ne peut plus fonctionner. Le dollar va s'effondrer et l'équivalence centrale fétichiste du travail mondial va s'effondrer. Mais on rebascule sur toute l'historicité d'Abraham Léon et de Marx. La valeur d'échange dans sa forme première articulée au cœur des empires agraires, elle est née dans le contrat abrahamique. Donc il est donc normal que dans l'hystérie de la crise généralisée de la société israélienne, tous les vieux fondamentaux archaïques de la religiosité talmudique explosent en exubérance. Au même moment où la société elle-même est en train de s'invalider, puisque la crise ultime du capital, c'est l'auto-invalidation de tout. C'est l'auto-invalidation de tout. Tout est en train de s'auto-invalider et la société israélienne, on l'avait dit dès le 7 octobre, elle est rentrée là-dedans, dans les opacités du Shin Bet et du Mossad validées par Netanyahou, parce qu'il n'y a pas d'issue. Avant le 7 octobre, cette société allait exploser de l'intérieur à travers toutes les réformes sur la cour constitutionnelle, les oppositions entre laïcs et pas laïcs, séfarades et ashkénazes. Pendant un an et demi, Netanyahou a recréé une autonomie interne, une unité, et ce n'est pas Netanyahou et l'équipe, c'est le seuil historique de la crise spécifique de la valeur d'échange en Israël. Mais on l'avait dit, à la fin, ce sera 1 000 fois pire qu'au début. La société israélienne aujourd'hui est 1 000 fois plus clivée que le 7 octobre. Elle est au bord de l'autonégation. La société américaine est au bord de l'autonégation. La société européenne est au bord de l'autonégation. Parce que la société de la valeur d'échange mondiale est au bout de l'autonégation, parce que nous sommes dans la crise de l'usine globale. Dans la crise de l'usine globale, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. La société iranienne est en décomposition sociale. La société iranienne est en décomposition sociale. Et elle va finir par s'effondrer. Et toutes les sociétés du Maghreb et d'Afrique noire sont en décomposition sociale. Et dans la géopolitique de la valeur d'échange qui s'effondre, elles vont s'effondrer. Tout va s'effondrer. Mais dans le tout va s'effondrer, il y a un lieu majeur, il y a un lieu majeur, c'est le lieu de la conscience radicale, ce que le groupe Marx Engels appelle l'épicentre révolutionnaire du devenir communiste de la réalité mondiale. Donc quand tout ça va s'effondrer, quand tout ça va s'effondrer, le projet communiste de la commune radicale qui abolit l'argent, qui abolit l'État, il va renaître au cœur de la géopolitique mondiale européenne, dans ce territoire radical de la France révolutionnaire, et il va obligatoirement poser la réalité objective de la nécessité de l'extension, de la propagation, de la diffusion et de la fraternisation révolutionnaire de tous les hommes contre tous les États, contre l'argent et contre toutes les mystifications politiques et économiques. Donc, comment s'ouvrira l'époque de la révolution sociale à un certain seuil? On est en 2025. Ça va se jouer dans une articulation qui va effectivement être au cœur des années 2040-2050. Ça semble long pour les impatients narcissiques qui ne font pas travail d'étude. C'est très court pour ceux qui se situent dans l'héritage et l'invariance de l'œuvre révolutionnaire du prolétariat mondial depuis le surgissement du groupe Marx Engels. Et nous, quand dans les années 85-90, on positionnait pour le siècle qui vient, l'insurrection qui vient, on se disait merde, peut-être qu'on la verra pas parce qu'on sera peut-être mort, mais on positionnait dialectiquement un vrai savoir total, théorique et pratique, de compréhension de la configuration de PL sur C plus V. Donc, réponse à la question que assez souvent on nous pose, tout va se jouer autour des années 2050, parce que c'est autour des années 2050 que ce qui structure l'unité de compte dans sa relation dialectique à la réserve de valeur, dans sa relation dialectique à l'intermédiaire des échanges, tout ça structuré dans une auto-présupposition de la valeur d'échange, va voir le dollar mettre en marche son procès de caducité, et dans le même temps, on verra toutes les formations sociales sur tous les continents s'auto-invalider, puisque la monnaie aboutira à ce moment où la dette de la dette ne peut plus fonctionner dans le crédit chimérique et où la dette de la dette ne peut plus essayer de se sauver par un retour à la valeur d'usage, puisque la valeur d'usage étant elle-même comprimée dans le déterminisme de la valeur d'échange, il y a l'impossible restructuration supérieure de l'intégralité de la formation sociale.
Et on va commencer avec la question de comment on naîtra je sais plus exactement comment on naîtra à l'époque de la révolution sociale. Et puis il y a toujours la même question de où elle naîtra, parce qu'on a finalement assez peu parlé de la France. Tout continue en France sur le même rythme. On a des contrefeux complètement grotesques sur les frères musulmans, les rapports, etc. Tout le temps, toujours. À défranciser la France. Il ne faut pas fétichiser le côté musulman à la limite, parce que ce qu'il faut, c'est orientaliser la France. Parce que derrière le rapport sur les frères musulmans, on finit par dire que pour lutter contre les frères musulmans, qui sont une fraction du problème, il faut arabiser la langue. J'ai vu enfin, j'entends par là, il faut qu'en France, on apprenne massivement l'arabe.
Ça va être pratique pour lire Le Capital, ça c'est bien ça.
Oui, ouais.
Le Capital en arabe, c'est génial.
J'ai vu un édito dans Le Monde qui expliquait franchement que maintenant il fallait admettre que l'islam est une religion française.
Oui.
Ça y est. Et il y a toute l'histoire du racisme anti-blanc, qui est un délire. C'est comme sur l'euthanasie, qui est une critique limitée de droite. Il n'y a aucun racisme anti-blanc. Il y a un racisme anti-France parce qu'il y a un racisme anti-guerre de classe. Pas guerre de classe, le groupe. Anti-lutte de classe du prolétariat. Ça n'a rien à voir avec du racisme anti-blanc.
Non, et le problème, dans les années 60-70, on parlait de l'abolition du salariat. Maintenant, le grand débat stratégique mondial de l'humanité, c'est voulez-vous vous mettre des chiffons sur la tête? On est passé de l'abolition du salariat au chiffon sur la tête. Pour ou contre? Nous, on n'en a rien à foutre, on veut l'abolition du salariat. On est des entêtés irrémédiables. À bas Gaza, à bas la Palestine, à bas l'Ukraine, à bas la Russie, à bas Washington, à bas tous les États, vive la solution à zéro État, à bas toutes les religions, à bas toutes les aliénations, vive le communisme radical. Mais on est très peu. Les gens dans leur substrat, quand la crise de l'implication réciproque va exploser, vont le ressentir en Europe. La crise mondiale du capital en Afghanistan, ça ne va pas positionner des surgissements révolutionnaires. Pas plus au Kurdistan, qu'au Nigeria, ou au Maroc. c'est en Europe historique des luttes de classe radicales, des luttes de classe radicales, que va surgir la question de l'abolition du salariat, et pas dans les municipalités anglaises et belges qui sont gérées par des confréries musulmanistes.
Et ça, on retrouve justement, c'est un indicateur, le fait que il commençait à y avoir des municipalités en Belgique et en Angleterre gérées par le village oriental. Quand en France, il y a une immigration gigantesque qui n'y a pas encore ça, et s'il n'y a pas une conscience de lutte de classe, que ce soit du prolétariat ou du capital, pour l'instant, il y a un instinct qui fait que la France est désignée comme le cœur à affaiblir. C'est un détail, mais on a la visite, le voyage de Macron à Hanoï, donc au Vietnam, faire le parallèle entre comment, notamment par rapport, on parle du village oriental, mais comment est accueillie la France, même si c'est l'aliénation, mais comment est accueillie la France par le Vietnam et comment elle peut être accueillie ou ce qui se passe avec l'Algérie en ce moment. Ça montre bien le poids de la victimisation qu'on veut faire porter à la France qui passe son temps à s'excuser sur tout un tas de choses qu'il y a eu, de colonisation, alors que dans la réalité objective, justement, de la longue histoire de ce qui s'est passé, il y a des choses difficiles qui se sont passées, mais elles ont surtout été par l'anglo-saxon, par le mondialisme anglo-saxon, et qui ne passe pas son temps à s'excuser. Et donc, c'est pas, il y a ce qui s'est passé, il faut savoir le dialectiser aussi au regard de tout ce qui se passe maintenant, où on nous fait culpabiliser en permanence. Et c'est intéressant de comparer ce qui s'est passé au Vietnam, ce qui s'est passé en Algérie. Mais qu'est-ce qu'il en reste de maintenant? Et le capital nous valorise, qu'est-ce qui le valorise? Qu'est-ce qu'on cherche à nous faire culpabiliser avec l'Algérie, justement? Et je ne sais pas si vous voulez dire
On
un
en a
mot sur
parlé
ça.
dans différentes émissions. La guerre d'Algérie s'est terminée par une défaite totale du FLN, l'affaire Sisala, défaite, et à peine en 62, l'Algérie indépendante, les purges internes au FLN. Donc le FLN a exterminé le MNA, le FLN a perdu la guerre d'Algérie, et à peine le FLN est-il au pouvoir qu'il y a des purges et des massacres en interne. Donc le FLN, depuis 1962, est incapable de produire quoi que ce soit à part la loi de repentance, et deuxième guerre d'Algérie, et il massacre 200 000 personnes en Algérie. Le Vietnam, il est passé à autre chose. On l'a dit, le Vietnam, il a une histoire, il n'a pas de repentance, il n'a pas de pleurniche, il est passé à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé à autre chose dans la dialectique de ce que positionne Rosa Luxembourg. La lutte de libération nationale du peuple vietnamien, c'est autre chose que celle du peuple algérien. Et au bout de tout ça, bon, il n'y a pas de haine, ils sont passés à autre chose parce qu'ils ne sont pas dans la razzia coranique. Ils sont dans la rente foncière travailliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus le français au Vietnam, tout le monde parle l'anglais. Et la structuration industrielle, commerciale, est totalement aux mains des Américains. Que ce soit SpaceX, que ce soit Microsoft, que ce soit les chaussures, que ce soit les t-shirts, que ce soit les pantalons. Donc, Rosa Luxembourg leur dirait, mais tout ça pour ça. Les Américains sont partis, le syndrome Saïgon, et 50 ans après, par des tractations commerciales impérialistes civiles, ils ont repris tout le pouvoir. Et ils sont les détenteurs du Vietnam. C'est intéressant, parce que quand Rosa Luxembourg, quand elle s'oppose aux luttes de libération nationale, elle s'oppose aux luttes de libération nationale en disant, bah, de toute façon, c'est toujours une mafia étatique qui va prendre le pouvoir, le FNL vietnamien, le FLN algérien, c'est une clique capitaliste qui va exploiter à son tour et qui, de toute façon, sera encore plus dure que la puissance colonisatrice. Mais elle ne dit pas que ça. Elle dit dans le même temps, depuis 14, puisque le capital est rentré dans la domination réelle et donc dans la décadence, le marché est fermé. Le marché mondial est fermé parce que Aucune nouvelle puissance ne peut surgir dans une autonomie stratégique. Donc, puisqu'aucune puissance ne peut surgir dans une autonomie stratégique, le Vietnam a une puissance régionale, mais il n'aura jamais d'autre puissance que cette puissance régionale assujettie à une puissance mondiale. Donc, Rosa Luxembourg n'a jamais été autant d'actualité que quand on voit la réalité de la décadence, la réalité de la décomposition, ce que je disais tout à l'heure sur l'anarchie du chaos de l'indistinction.
Quand on regarde ce que vous dites, ce qui s'est passé au Vietnam, les conséquences maintenant, en 2025, où il y a encore des générations victimes de toutes les saloperies de l'impérialisme américain, des guerres, des cancers, tout ça, ça continue. Et pourtant, c'est la valeur d'échange qui a triomphé et qui passe par-dessus tout ça. Et
Alors,
ça, c'est...
je reprends ce que je disais par rapport à Rosa Luxembourg. Dans le même temps, faut voir que l'anarchie du chaos de l'indistinction, c'est l'anarchie du logos. Il n'y a plus de logos. Quand les gens vous parlent du logos, ils croient que c'est un truc intelligent qu'on se construit dans la tête avec une capacité méthodologique de produire un outil. Non, le logos, c'est le mouvement réel révolutionnaire qui est reçu et qui, dans une dialectisation, ouvre la porte de l'action historique de conscience, de volupté, de transformation. Dans l'usine globale, il n'y a plus que les morts-vivants. Il n'y a plus que les morts-vivants. Donc, la débilité généralisée. J'avais un correspondant qui me parlait de Rocamadour, la rave party. Vous avez 10 000 abrutis qui arrivent dans un champ, qui ont des piercings à gauche, des piercings à droite, puis qui pendant 3 jours vont agiter leur squelette de mort-vivant sur des musiques de merde, prendre des produits hallucinogènes de merde. Mais elle est où l'historicité? C'est le robot abruti, mort-vivant de la capitalisation ultime. Puis dans le même temps, vous avez les mecs débiles qui vont faire des sabotages électriques au nord de Cannes en se disant « Ah nous, on est des mecs bien, nous on est des radicaux, la planète est en danger, allez, on va saboter un truc. » Alors ils sabotent un truc qui est en relation avec Cannes, les abrutis médiatiques du crétinisme cinématographique qui sont les premiers à jouer aux bobos écolos débiles, pro-LGBT, pro-immigrationnistes. Tout est inculte, tout est bête, tout est idiot. Tout est mort-vivant. Tout est mort-vivant. Plus rien n'a de sens. Et puis alors, la délinquance avec les agressions au couteau, etc., qui sont mis comme ça en relief, mais sans analyse historique, sans analyse dialectique, sans analyse de lutte de classe, c'est le degré ultime du chaos de l'indistinction. Dans le voyage au bout de la fin du capital, je reprends tout ce que dit Marx sur la délinquance, sur le lumpen. Il faut comprendre que dans cette lutte de classe généralisée, qui se prépare, alors on l'a dit des centaines de fois, il y a bien évidemment toute la garde mobile contre-révolutionnaire qui sera constituée par toutes ces milices du narcotrafic pour effectivement affronter le prolétariat, mais si vous voulez, il y a déjà un climat de débilité historique, d'ontologie historique abrutissante. La délinquance telle qu'elle est une partie du mode de production dans le cadre de la crise terminale. Elle produit la schizoïdie supérieure. Quand on dit l'usine globale, c'est la schizophrénie mégapolitaine du capital, la schizophrénie mégapolitaine du capital, elle est le climat généralisé ambiant. Elle est le climat généralisé ambiant. Mais on a toute une série de faunes qui représentent l'avant-garde de la schizophrénie mégapolitaine, c'est-à-dire la schizophrénie mégapolitaine en action subventionnée ou soutenue par le capital lui-même pour continuer d'abrutir la population dans la reproduction sociale d'une formation totalement aliénatoire. Donc on est vraiment au bout de tout, on est au bout de tout, c'est pour ça que le mot crise ultime, il signifie que tout ce qui structure la pathologie de l'usine globale, la pathologie narcissique du mort-vivant ahuri, abruti, encaserné dans la réification, est en train d'atteindre le degré supérieur. On n'aura jamais vécu une époque où l'homme sera autant abruti, dégénéré et anti-historique que les années qui viennent. Et c'est normal, puisque les années qui viennent sont le paroxysme de la valeur d'échange totalitaire de l'homme coupé de l'homme et de l'antinaturalisme achevé. Donc on va rencontrer des zombies abrutis sur tous les sujets qui seront incapables de saisir ce qu'est l'histoire, de saisir ce qu'ils sont en l'histoire, ce que l'histoire est en eux, puisque on est au bout de l'historicide. On est au bout de l'historicide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la crise ultime du dollar. Et cette crise ultime du dollar nous dit que nous sommes au moment où la crise de l'équivalence centrale fétichiste va surgir. C'est la boussole dialectique que le groupe Marx Engels nous a transmis, et c'est à partir de là que toute réflexion doit se faire. C'est-à-dire que dans quel monde je vis aujourd'hui? Que va-t-il se passer? Quelle est mon espérance de joie, de jouissance, de fraternité pour moi, pour ma compagne, pour mes enfants, pour mes proches? Quel est mon projet de vie? Tout ça n'a aucun sens s'il n'y a pas une relation dialectique à l'histoire et au comprendre au sens étymologique grec du comprendere, prendre avec soi le devenir de l'histoire dans une radicalité objective qui fait que précisément nous sommes des hommes conscients de la conscience vraie, de la conscience vraie. Parce que l'ahuri mort-vivant, il est conscient, il a une conscience de mort-vivant. Faut retrouver le chemin de la conscience vraie, la conscience radicale, la conscience explosive, et surtout se rappeler cette dichotomie radicale que le groupe Marx Engels a posée entre le village européen qui, de la décomposition féodale à la modernité capitaliste la plus élaborée, est porteur du manifeste communiste, est porteur de l'émancipation humaine, est porteur de la révolution sociale, et l'intégralité des villages orientaux, des despotismes étatiques et para-étatiques multiples et variés, qui n'est producteur que d'une docilité incontournablement intarissable et reproduite. Donc on va au bout de l'histoire, tout va se signifier, tout va se dire, tout va se faire, et c'est ce travail que nous devons faire, et il faut que les gens qui nous écoutent non pas d'une manière passive, mais d'une manière active, en rentrant dans ce cheminement historique du mouvement réel, comprendre les textes, mais pas comprendre les textes comme des textes, comprendre des textes comme des jalons d'histoire et de patrimoine que nous recevons avec humilité, en comprenant que ces textes ne sont pas des textes, mais ce sont des éléments de vie, des éléments de charpente d'existence, des éléments de passion, des éléments de joie, des éléments de lucidité, des éléments de transparence et des éléments de vérité.
Hispanias, Lucia.